d'habitude. À tout à l'heure.
Merci. Je voudrais simplement attirer votre attention sur un document qu'une de nos collègues vient de me communiquer, qu'elle a imprimé d'Eduscol. C'est un document du 27 janvier 2010 qui va servir de base à la consultation nationale sur les programmes, donc sur les projets de programmes de la classe de seconde générale et technologique qui vont être en application en septembre 2010. Et c'est un document donc du 27 janvier 2010, tout récent, et elle attirait mon attention sur le fait que l'accent est mis sur la démarche scientifique, sur une interrogation sur la démarche, et il est vrai que en relation avec un des ateliers d'hier, il y a des choses qui vont résonner, puisque dans ce texte, donc c'est un préambule au programme de physique-chimie, mais qui est commun au programme de sciences de la vie et de la Terre. On indique que la science est un mode de pensée qui s'attache à comprendre et décrire la réalité du monde à l'aide de lois toujours plus universelles et efficientes, par aller et retour inductif et déductif, entre modélisation théorique et vérification expérimentale. Donc, contrairement à la pensée dogmatique, la science n'est pas faite de vérités révélées intangibles, mais de questionnements, de recherches et de réponses qui évoluent et s'enrichissent avec le temps, etc. Donc, il y aurait énormément de points épistémologiques à discuter à partir de cette présentation de la démarche, donc, qui va finalement intégrer au lycée la démarche d'investigation qui a commencé à se mettre en place dans le premier degré, qui entre au collège et qui va bien sûr arriver au lycée. Et dans ce préambule, on attire l'attention également sur la nécessité de mettre en perspective historique les savoirs enseignés, puisqu'on dit que la science est incarnée, elle est élaborée par des hommes et des femmes qui vivent dans un contexte temporel, géographique, sociétal, et donc pour donner sens auprès de l'élève à l'enseignement des sciences, on doit être amené à lui faire connaître l'histoire de la construction de la connaissance scientifique, etc. Source de liberté individuelle, esprit critique, etc. Donc il y a un très beau texte là introductif. Alors après, effectivement, il faudra étudier dans le détail le contenu, l'application, etc. Mais en tout cas, vous allez être amené à discuter, à travailler, à réfléchir. Vous allez être consulté, comme c'est la règle maintenant quand sortent des nouveaux programmes avant la stabilisation de ce programme. Et votre collègue m'indiquait aussi qu'il y a en classe de seconde, dans le futur programme dans SVT, le thème de la biodiversité qui est entré. Donc là, on pouvait un petit peu s'y attendre. Effectivement, tu évoquais l'année de la biodiversité. Alors bon, l'ONU aime bien décréter des années comme ça. L'an dernier, c'était l'année de l'astronomie. Il y aura l'année de la chimie. Maintenant, c'est l'année de la biodiversité. Pardon ? L'année internationale, bon, effectivement. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction que je n'avais pas prévu de faire, puisque ce document vient de mettre... Je vais en faire ma lecture dans le train ce soir. Alors, s'agissant de la biodiversité, donc effectivement, puisque Anne a commencé à raconter une petite histoire, je vais moi aussi poursuivre. Et c'est vrai qu'au tout début des années 80, quand j'étais étudiant à l'université de Poitiers, étudiant en sciences, on préparait à l'époque ce qu'on appelait la maîtrise S sciences naturelles. Eh bien, au tout début des années 80, nous avions tous l'impression, et je pense nos enseignants aussi, que tout ce qui était relatif à ce qu'on n'appelait pas encore biodiversité, c'était l'affaire des biologistes, l'affaire des naturalistes. Pour le dire autrement, on considérait que la biodiversité, j'emploie le terme malgré tout, était un objet porté par les seuls naturalistes. Je me souviens de sorties botaniques, écologiques, on faisait des sorties zoologiques sur la côte charentaise. À l'époque, on avait encore peut-être l'argent et l'intérêt pour amener des étudiants sur les milieux naturels. Donc, je me souviens de stages de 2 ou 3 jours sur la côte charentaise en particulier. Et donc là, on était en plein dans la question qui, pour nous, était disciplinaire, la question de la diversité biologique, de son inventaire, etc., voire des préoccupations qu'on pouvait avoir relativement à sa pérennité. Alors, pour le grand public, toujours tout début des années 80, finalement, la biodiversité, c'était quoi ? Bon, c'était une histoire de petites fleurs et de petits oiseaux. Hein, c'était pas très sérieux. Les naturalistes ou les biologistes qui s'intéressaient à la biodiversité étaient un petit peu vus avec un certain amusement. En tout cas, donc c'était un objet qui était une fois encore tout à fait disciplinaire et un petit peu à la marge, considérait-on, de la vraie science. Pourtant, à cette époque, donc également alors fin des années 70, début des années 80, un certain nombre de travaux de recherche sont en cours et des travaux qui s'inscrivent dans le cadre de deux champs disciplinaires qui sont en train de se structurer, qui sont en train d'émerger. C'est l'écologie des paysages. L'écologie des paysages, c'est une sous-discipline de l'écologie qui est en train de se développer au début des années 80, et également la biologie de la conservation, qui est une discipline de crise, finalement. La biologie de la conservation est née de préoccupations relatives à l'érosion de la biodiversité, pour employer une expression moderne. Donc, à la fois donc la biodiversité calée du côté des sciences de la vie, la biodiversité qui commence à être conceptualisée et travaillée dans le cadre de nouveaux champs disciplinaires, et puis je dirais que par la suite, dans les années 80 puis 90, on a commencé à découvrir, même quand on était enseignant en sciences de la vie et de la terre, donc peut-être dans un cadre disciplinaire, au travers des manuels scolaires, au travers d'un certain nombre de contenus de programme, on se rendait compte finalement que la biodiversité, c'était quelque chose d'un petit peu plus complexe et qui était finalement un objet pluridisciplinaire. Cette complexité a d'ailleurs commencé à être médiatisée à l'occasion du fameux sommet de la Terre, hein, Rio, le sommet de 92, de juin 92, qui a vu finalement un croisement entre la problématique de développement durable qui commençait elle aussi se structurer autour d'un modèle, c'est le modèle développement durable made in Rio, avec les trois sphères, on ne va pas le discuter ici, c'est pas l'objet, mais en tout cas donc Rio c'est un moment clé, un sommet clé, je dirais, au cours duquel la problématique de développement durable et la problématique de biodiversité sont croisées. Et donc, parmi les textes qui ont été produits à Rio, il y a une convention sur la biodiversité, notamment. Donc, on va relier la question de la biodiversité à celle du développement durable. Le développement durable étant un modèle assez complexe, intégrant des questions écologiques, certes, mais également économiques et sociales, et bien du coup, la biodiversité, alors on va le dire, parce que ça fait débat et controverse aussi, on peut dire que la biodiversité échappe un peu au milieu des scientifiques, biologistes, écologistes, pour devenir l'affaire des économistes. C'est donc, je pense, notamment au laboratoire auquel j'appartiens maintenant, tu as fait allusion, donc il y a le CEDES, qui est un laboratoire qui est un laboratoire d'économistes. Et effectivement, à ma grande surprise, ils m'ont proposé de travailler avec eux, mais j'ai dit, mais moi je ne suis pas du tout économiste, je n'entends rien à l'économie. Mais oui, mais ce que tu travailles en particulier au niveau historique sur la biodiversité, ça nous intéresse, parce qu'on a peut-être besoin d'un éclairage que nous, on n'a pas en tant qu'économiste. Et moi, du coup, grâce à eux, je découvre effectivement la complexité, l'extrême complexité de cet objet que je, entre guillemets, biodiversité, et les intérêts, bien sûr, économiques. C'est une affaire d'économie, mais c'est aussi une affaire de business. Hein. Il y a donc, c'est un petit peu le à la fois la richesse, l'intérêt, la complexité et la difficulté que l'on peut avoir à aborder le thème de la biodiversité autrement que par le biais d'une seule discipline, ou alors en privilégiant une entrée disciplinaire, mais en s'ouvrant à d'autres disciplines. On le voit bien à partir du moment où on réfléchit cette question-là, je dirais en référence à la problématique de développement durable, puisque la question de l'éducation au développement durable est également intégrée dans les enseignements. Alors, s'agissant peut-être du regard que l'on jette actuellement sur la biodiversité et de l'intérêt. Alors, c'est un intérêt actuellement qui est lié à une situation de crise, hein, le risque d'extinction d'une grande partie de la biodiversité. Un certain nombre d'observateurs, un certain nombre de chercheurs estiment même que la biosphère, hein, est en train de vivre sa sixième extinction massive. Donc, on dirait, ça veut dire qu'il y en a eu cinq autres. Alors il y en a une qui est assez connue et qui a été assez médiatisée. C'est l'extinction qui s'est produite il y a 65 millions d'années et qui aurait entraîné la disparition des dinosaures. Donc là, les mais on oublie que derrière les dinosaures, il y a à peu près 80 ou 85% de la biodiversité, en particulier marine, qui a été affectée par cette extinction. Là non plus, je n'ai pas discuté des causes, hein, des facteurs qui auraient été à l'origine de cette extinction de la biodiversité. En tout cas, il y a une chose dont on est sûr, c'est que nous, on n'y était pour rien, hein, il y a 65 millions d'années, contrairement à celle qui est en train de se produire actuellement. Puis bon, quand on dit extinction des dinosaures, je trouve ça, bon, je ne sais pas ce qu'en pensent les biologistes ici, mais je veux dire, si les grands dinosaures avaient disparu, ils ne feraient pas cuicui dans les arbres aujourd'hui, hein, donc forcément. Donc là, il n'y a pas eu vraiment non plus de disparition de ce taxon. Alors, il y aurait eu d'autres extinctions, hein, donc il y a un peu discussion sur la pertinence de ce type d'approche. Alors, il y en aurait une il y a 445 millions d'années, une autre il y a 375 millions d'années, enfin bon, peu importe. Il y aurait eu 4 ou 5 grandes périodes qui auraient vu la disparition de 80 à 90% de la biodiversité. Et donc, nous serions peut-être en train de vivre la sixième période. Alors, ce qui est projeté, c'est donc à peu près la 95% de la biodiversité qui serait condamnée en moins de 20 000 ans. Et la biosphère pourrait mettre à peu près 10 millions d'années pour récupérer, alors non pas la même biodiversité, mais pour récupérer à nouveau une richesse biologique. Donc, on dirait, à l'échelle de la planète, ce n'est pas une catastrophe. Des extinctions de la biodiversité, il y en a eu d'autres. Après tout, celle qui s'est produite il y a 65 millions d'années nous a été très favorable, puisqu'elle a permis effectivement le développement, l'installation d'un certain nombre de mammifères. Bon, voilà, je prends un regard un petit peu comme ça, comme si j'étais un alien, observant ça de façon dédramatisée, en disant, bon, voilà, qu'est-ce qui va sortir de ça? Quels seront les taxons dominants? Les niches écologiques laissées libres seront, par certains taxons, seront occupées par lesquels? Bon, alors, le problème que nous avons, c'est que ces échelles de 20 000 ans, 10 millions d'années, évidemment, ne sont pas à la mesure des échéanciers humains. Nous, on a un problème. C'est que, par exemple, on augure de la fin de la pêche commerciale dans une quarantaine d'années. Donc ça nous pose un sérieux problème. La disparition de la forêt amazonienne vers 2050, ça nous pose un problème. Quel type de problème ça pourrait nous poser? Donc on a un échéancier très court par rapport à ces échelles géologiques, si vous voulez, qui sont celles de la Terre. Alors, par ailleurs, ça, je dirais que c'est presque une approche consensuelle. Voilà, on est de plus en plus convaincu globalement qu'il y a une extinction, une érosion massive de la biodiversité et sans doute assez rapide. Alors, Je vais malgré tout interroger cette vision-là. On pourrait donc du coup s'interroger sur la réalité de cette extinction massive. Parce que quand on dit la biodiversité subit actuellement une érosion considérable, ben, de quelle biodiversité parle-t-on ? C'est un problème de mesure, un problème d'inventaire. Il n'y a en réalité pas de mesure objective de la biodiversité. Certaines vont mettre l'accent sur l'usage que l'on en fait. On va s'appuyer sur un certain nombre d'inventaires qui sont forcément incomplets. Pour réaliser des inventaires, il faut d'abord avoir un intérêt par rapport à ce type d'inventaire. Il faut de l'argent, il faut aussi des ressources humaines. Donc, qui est capable actuellement de réaliser des inventaires, d'avoir quelle structure, quelle institution peut avoir le temps et l'argent nécessaires pour réaliser ces inventaires. Alors, il y a un certain nombre d'observatoires de la biodiversité qui se constituent et qui s'efforcent de centraliser toutes les données. Alors, ce serait un petit peu l'équivalent du GIEC. Vous savez, le GIEC, c'est ce groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, donc qui produisent des rapports régulièrement sur les changements climatiques. Donc là, le GIEC, c'est presque une superstructure assez inédite dans toute l'histoire de l'humanité, j'allais dire. On n'a jamais réuni autant de monde, autant d'efforts, autant de laboratoires, autant de forces pour étudier les changements climatiques. Alors ce que certains essaient de faire, en particulier sous l'égide du PNUD, le Programme des Nations Unies sur le développement, c'est de créer une structure équivalente. Alors il y a une structure qui est proposée, qui s'appelle l'IPBES, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Je pourrais vous le refaire tout à l'heure si vous voulez, sans l'accent. Donc IPBES, hein, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Donc c'est le nom qui est donné à un groupe international d'experts, donc sous l'égide du programme des Nations Unies pour le développement, pour produire donc des données et un certain nombre de pistes de travail sur le thème de la biodiversité. Alors vous savez que un certain nombre de pistes ont été lancées en janvier 2005 lors d'un congrès qui a été organisé à Paris sur le thème de la biodiversité et donc au plus haut niveau de l'État, puisque ce congrès a été le discours d'ouverture a été prononcé par Jacques Chirac à l'époque, et donc par le biais de ce sommet parisien, le gouvernement voulait lancer ou relancer des programmes d'inventaire, des programmes de recherche sur la biodiversité. Et à l'époque, la France avait le projet de redevenir un petit peu leader en Europe sur ces questions de biodiversité. Bon. Donc ça, c'est juste un petit point qui n'est pas déconnecté de ce que je suis en train de raconter, puisque a été discuté là justement le problème de la mesure, le problème des inventaires, le problème de l'évaluation. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Ben, on aurait à peu près décrit 1,8 million d'espèces, hein, et on estime qu'il pourrait y avoir... Alors, les estimations les plus basses, c'est 3,6 millions d'espèces. Et les estimations les plus élevées, c'est 100 millions d'espèces. Donc, vous voyez le flou. Hein. On a, au niveau des espèces, à peu près 1,8 million d'espèces inventoriées. Et il y en aurait entre 3,6 et 100 millions. Alors, si on essaie de voir toutes les estimations, on arrive peut-être à 10 ou 13 millions d'espèces. Alors, si on garde cette valeur moyenne, on connaît 2 millions d'espèces, il y en aurait 13 millions. Ça fait quoi, 15%, non ? Enfin, bon, je sais plus, oui, les matheux, oui, à peu près. Voilà. Donc en tout cas, on est loin, quels que soient les débats sur les chiffres, on est loin d'avoir appréhendé la totalité de la biodiversité. Bon, par exemple, même si on ne s'intéresse pas spécialement à la sauvegarde des virus, ça c'est pas très médiatique, on connaît à peu près 5000 virus, il en existerait 500 000. Donc si on va... Attention, quand on dit biodiversité, on pense, et c'est peut-être un biais historique, on pense aux mammifères, on pense aux animaux, on pense à certaines plantes. Voilà, effectivement, la diversité des micro-organismes fait partie de la biodiversité. On connaît 1 million d'espèces de crustacés, il en existerait 8 millions. au moins. Donc, les estimations sont évidemment faites à partir de projections qui s'appuient sur les rythmes de découverte d'espèces nouvelles. Donc, on a des courbes. Hein, chaque année, on découvre de nouvelles espèces dans différents taxons et on fait une projection. Donc, finalement, on est un petit peu, je dirais, dans la même situation que ce petit bonhomme. Là, je me disais, ça pourrait être le... On pourrait raconter une nouvelle histoire du petit Nicolas de Sampé. On lui a offert un télescope ou une lunette. C'est un peu sombre, tiens, cette affaire-là. C'est normal, c'est la nuit. Voilà, donc on est un petit peu dans la situation de cet observateur. Hein, donc imaginez-vous en train de pointer une lunette astronomique vers le ciel. Et dans le champ de cette lunette, vous distinguez 10 étoiles. Tout à coup, une étoile s'éteint. Est-ce que vous devez en induire que les étoiles de la voûte céleste sont en voie de disparition ou sont en voie d'extinction ? On en est là, finalement. Quand on interroge cette affirmation consensuelle, on vit actuellement une grande érosion de la biodiversité. Est-ce que, à l'échelle de la biodiversité de la planète inconnue, incluant tous les micro-organismes, et tu évoquais les fonds sous-marins, il y a une multitude d'espèces invertébrées, entre guillemets, même si on n'a plus le droit de dire invertébrées, bon, qui sont inconnues. Donc là, effectivement, quelle est la réalité de cette disparition de la biodiversité ? Alors, d'ailleurs, c'est un petit peu tautologique mon raisonnement, mais d'une certaine façon, la biodiversité qui disparaît, par définition, c'est celle qu'on connaît, hein, c'est celle que l'on utilise, celle qui nous permet de nous nourrir, de nous vêtir, de nous loger, de nous soigner, de nous divertir, celle qui représente pour nous une valeur patrimoniale, une valeur culturelle, artistique, spirituelle, etc. Et donc, en ce sens, effectivement, la situation actuelle de la biodiversité est tout à fait dramatique, mais c'est une vision très anthropocentrée. C'est-à-dire que la biodiversité qui nous intéresse, et de fait, comme elle nous intéresse, là on est encore en boucle, c'est celle que l'on exploite le plus et depuis le plus longtemps, donc celle-là, effectivement, elle est menacée. Bon, une fois encore, il y a d'autres... De nombreuses espèces qui sont effectivement impactées par le biais des chaînes alimentaires, des interactions au sein des écosystèmes, des espèces qui ne nous intéressent pas mais qui sont impactées par la disparition d'espèces que nous utilisons. Mais en tout cas, donc, on peut, alors du coup je recentre la question de l'extinction en disant oui, il y a une érosion importante de la biodiversité, celle que nous utilisons, celle que nous connaissons, qui n'est finalement qu'une fenêtre, un petit peu, voilà, c'est le champ couvert par la lunette, par le microscope et par les inventaires tels qu'ils ont été réalisés actuellement. Alors, ceci constituait l'introduction de mon propos. Un peu longue. Rassurez-vous, quand les introductions sont longues, les développements sont courts. Et on a le temps. Voilà. Alors, je voudrais effectivement peut-être structurer la suite de mon propos autour de différentes questions, finalement. Comment peut-on définir aujourd'hui la biodiversité ? Comment essaie-t-on d'identifier les priorités en matière de protection, de conservation ? Comment lutter efficacement contre l'érosion de la biodiversité qui nous intéresse, pour le dire comme ça ? Quels sont les modèles qui sont promus actuellement ? Quels sont les débats, les tensions entre conservation et marchandisation de la biodiversité ? Donc, c'est un petit peu ces trois points-là. Donc, un, la biodiversité, de quoi parle-t-on ? Comment on lutte efficacement ? Et quel modèle est-ce que l'on promeut actuellement pour la protéger, voire pour la marchandiser ? Alors, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'au début des années 80, on ne disait pas biodiversité, et pour cause, puisque c'est une expression qui date de 87. Alors, sous réserve d'inventaire, comme on dit toujours dans ces cas-là, l'expression biological diversity date de 1980, et la forme contractée biodiversité a été proposée à l'issue du premier congrès qui a été organisé à Washington en septembre 86, c'est un forum en fait, le premier forum international sur la biodiversité organisé à Washington en septembre 86, donc par Wilson, Edward Wilson et Walter Rosen. Donc le premier, Walter Rosen est de l'Académie des sciences des États-Unis et co-directeur donc de ce premier forum avec le célèbre entomologiste Edward Wilson. Hein. Wilson, on dit souvent, c'est le spécialiste mondial des fourmis. Il a le père de la sociobiologie, hein, une discipline controversée là aussi. Mais bon, voilà, Wilson est souvent associé à ses travaux dans le domaine de la sociobiologie. Et donc, dans les actes qui paraissent en 88, eh bien, la forme contractée biodiversité figure. Alors, on dit que Wilson n'était pas très partant pour cette expression qui avait été proposée par un journaliste. Et puis finalement, il regrette pas de s'être laissé convaincre, puisque du coup, le mot biodiversité a eu un grand succès médiatique. Et donc, je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure dans le contexte de la fin des années 80. Donc, 87, premier forum sur la biodiversité, début de conceptualisation de la biodiversité et débat à Rio dans le cadre du développement durable sur effectivement la protection de la biodiversité ou la marchandisation de la biodiversité. Alors Wilson, dans les actes de du forum sur la biodiversité, donc qui paraissent en 88, propose un message à méditer. Je le cite. Le succès de la conservation de la biodiversité ne pourra être envisagé que lorsque la faune et la flore d'un pays seront perçues comme un héritage aussi important que son art, sa langue, sa culture. Et il ajoute que protéger la biodiversité renvoie à des questions éthiques, en particulier sur les relations homme-nature. Alors, du coup, il y a des programmes, je pense à quelqu'un comme Raphaël Larère, qui travaille beaucoup. Voilà. Il sera là la semaine prochaine, qui est un spécialiste des questions éthiques liées à l'environnement. Et sa femme aussi. Ils sont tous les deux donc de grands spécialistes des questions relatives à l'environnement et les questions de droit, d'éthique liées à ce domaine-là. Alors, donc, ça c'est une réflexion donc de 88. Alors, est-ce que ça signifie pour autant que les préoccupations ou l'intérêt pour la diversité des espèces animales et végétales datent des années 80 du XXe siècle? Évidemment non. Hein, on trouve des préoccupations très anciennes, on trouve même des décrets chez les du temps des Perses. Hein, c'est un Artaxerxès Ier, je crois, qui ça s'appelle. Je crois que la traduction c'est longue main. Je sais pas, apparemment il avait des grandes mains, qui avait diffusé un décret interdisant de couper les cèdres, ce qu'on appelle maintenant les cèdres du Liban, par exemple. Alors évidemment, ce sont pas des politiques globales de protection du cèdre ou de l'arbre ou de la forêt qui sont en cause ici. Il y a bien d'autres raisons, des raisons religieuses en particulier, qui sont derrière ça. Mais bon, pour aller peut-être à des époques plus récentes et pour essayer de repérer la période des premiers grands mouvements organisés protection des animaux ou des végétaux, il faut remonter au 19e siècle. Et là, je l'ai fait presque par hasard ce matin en attendant mon train, je feuilletais comme d'habitude les revues à la gare, et donc dans le numéro de Pour la science de février 2010, il y a un article fort intéressant d'une historienne des sciences de l'environnement qui étudie la découverte de la biodiversité ainsi que l'origine de sa protection. Elle s'appelle Valérie Chansigaud. J'avoue que je ne la connais pas. Tu la connais? Alors, explique-moi. Qui est ? Tu connais ? Voilà. Mais je ne connais pas, c'est, comme ils n'indiquent pas ces rattachements institutionnels et autres, j'avoue que... Ah ! Ou sur l'ornithologie, peut-être. Parce qu'elle a écrit un ouvrage en 2007, Histoire de l'ornithologie, chez Delachaux et Niestlé, et en 2009, Histoire de l'illustration naturaliste. Voilà. D'accord. D'accord. Donc voilà, c'est une spécialiste de l'histoire des sciences de l'environnement, et elle montre bien que les premières organisations militantes, on va dire, dans le domaine de la protection des animaux, eh bien, ce sont des organisations de chasseurs et des organisations de protecteurs des oiseaux. C'est essentiellement dans le domaine de l'ornithologie, et bien sûr, ce qui était visé ici, c'était la sauvegarde des animaux vertébrés. En particulier. Et donc, elle montre que effectivement, ce mouvement militant se structure complètement à l'extérieur du milieu naturaliste. Alors ça, j'avoue que quand j'avais travaillé dans le cadre de ma thèse sur l'origine de l'écologie, j'ai exploré des maîtres linéaires de bulletins de sociétés naturalistes, et j'avoue que j'avais été un petit peu déçu à l'époque de ne pas trouver de réflexion, d'action qui montrait que les naturalistes amateurs étaient sensibles au problème de la disparition des espèces. Alors là, pas du tout, ou vraiment très à la marge, en particulier les botanistes, hein, les botanistes qui étaient très très actifs, les sociétés botaniques au 19e siècle étaient florissantes, sans mauvais jeu de mots. Et alors, on pourrait même suspecter les botanistes comme étant, pas forcément responsables, mais comme joueurs, et ayant une certaine responsabilité dans la disparition locale d'un certain nombre d'espèces, puisque moi qui couvrais ces choses-là jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'était un peu ma période chronologique, c'était de la fin de la Révolution française au début du XXe siècle, eh bien, on lisait avec effroi, avec le recul, des instructions du genre récolter abondamment des espèces, surtout les espèces les plus rares, pour pouvoir les échanger avec vos collègues. Donc la pratique extrêmement répandue chez les botanistes était bien sûr de constituer des inventaires et de créer des herbiers, et surtout d'échanger des plantes. Il y avait des sociétés d'échange de plantes. Et dans la Société botanique des Deux-Sèvres, que j'ai étudiée en particulier, qui est devenue la Société botanique du Centre-Ouest, eh bien, avait même créé une organisation interne à la société. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté, ils s'appelaient des échangistes. Alors attention, pas d'ambiguïté, ils échangeaient des plantes, c'est-à-dire leur travail, c'était au sein de la société, était de réguler, d'organiser un système d'échange de plantes. Et donc, quand on entrait à l'époque à la Société botanique des Deux-Sèvres, mais c'était valable pour d'autres, eh bien, en quelques mois, on pouvait se constituer un herbier de plusieurs centaines de plantes grâce aux échanges, grâce aux envois. Et donc, quand on... Je me souviens d'avoir lu des comptes rendus d'excursion dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Donc là, c'était partir des Deux-Sèvres pour aller excursionner dans les Alpes ou dans les Pyrénées au 19e siècle. C'était quand même pas une mince affaire. C'était un sacré voyage. Donc il y avait des comptes rendus très longs, mêlant tourisme, pittoresque, science. Les premières photographies. On voyait, je me souviens, d'une ascension dans les Alpes où on voit des messieurs chapeautés, des dames avec des grands chapeaux et des robes posant fièrement sur un sommet enneigé, etc. Donc ça, c'était quelque chose d'important. Et là, ils avaient pour instruction, ces excursionnistes, de faire ce qu'on appelait des centuries. Une centurie, c'est un paquet qui contient 100 plantes de la même espèce. Donc, je me souviens d'un carnet du président de la société de l'époque, qui était Baptiste Souchet, qui était le président fondateur et qui a dirigé cette société jusqu'en 1915, écrivant dans son carnet, « J'ai récolté une centurie de cette violette très rare. » Donc là, on est loin, hein, on est loin de ces préoccupations relatives à la protection, à la préservation. Donc leur mission n'est absolument pas de jouer un rôle dans la protection ou la conservation des espèces. Leur mission, c'est d'inventorier, de créer des collections, de multiplier des herbiers, à la fois pour des raisons pédagogiques, des raisons scientifiques. Donc, ils rêvaient du fait que chaque commune, chaque canton ait un herbier qui puisse être consulté, en particulier par les instituteurs, par les pharmaciens, par les botanistes notables, les curés. Il y a beaucoup de curés des fleurs à l'époque dans les sociétés, énormément d'ecclésiastiques, d'instituteurs, de médecins, de pharmaciens travaillaient. Donc ils avaient vraiment une mission qui était loin de celle que s'attribuent ces premières organisations militantes, donc de chasseurs et de protecteurs des oiseaux au 19e siècle. Et donc on le sait également, un certain nombre de mouvements commencent à se structurer, d'abord en Angleterre, au début dans les années 20 du 19e siècle, qui manifestent finalement une sorte d'essor d'une sensibilité à l'égard des animaux. C'est-à-dire que le 19e siècle était aussi le siècle de réflexion morale, on ne disait pas encore éthique, relativement au respect des animaux. Hein, y a des discours assez intéressants, et je pense à un ouvrage d'un historien qui s'appelle Agulon, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le sang des bêtes », et qui est une histoire de la sensibilité à l'égard des animaux, en particulier au XIXe siècle, et qui montre comment on s'est intéressé, préoccupé de la souffrance des animaux, et aussi, pour des raisons éducatives, au spectacle donné aux enfants, spectacle horrible et insupportable d'animaux maltraités, par exemple publiquement, des animaux qu'on conduisait à l'abattoir, les vaches, les chevaux qui étaient roués de coups. Et à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, voit l'application de ce qu'on appelait la loi Gramont. La loi Gramont, c'est la première loi relative à la protection des animaux, alors des animaux domestiques. C'est une loi des années 50 du 19e siècle. Donc là, il y a des gens qui se retrouvent en justice tout simplement parce qu'ils ont été vus conduisant à l'abattoir une vache qu'ils rouaient de coups. Et donc ça finit en justice et ça finit par des amendes. Donc effectivement, en Angleterre, puis en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et aux États-Unis, on a tout un tas de mouvements, tout un tas d'associations qui attirent l'attention sur la nécessité de protéger ces animaux, à la fois pour les animaux eux-mêmes et à la fois pour des raisons éducatives, une fois encore, hein, en Europe, en France en particulier. Le 19e siècle est un siècle de révolution, un siècle de guerre. Et on a eu 1830, on a eu la révolution 1830, 1848, on a 70, etc. Donc il y avait une méfiance de la bourgeoisie dominante qui avait été aux rênes du pouvoir, qui avait, sommairement, on peut dire que il avait remplacé l'aristocratie à ce niveau politique et économique. Et donc la bourgeoisie était sensible à certaines pratiques, un petit peu pour se démarquer de pratiques sociales qui étaient ceux de l'aristocratie et qui finalement critiquaient la chasse à courre. Déjà, c'est une pratique de classe, et la nouvelle classe voulait s'installer sur de nouvelles valeurs, d'une certaine façon, et donc on luttait contre ces pratiques de la chasse à courre qui entraînaient une grande souffrance des animaux, disait-on. On luttait contre les attelages de chiens, on luttait également contre les combats de coqs, et bien sûr, la corrida dite à l'espagnol, c'est-à-dire une corrida, la corrida à l'espagnol qui se termine par, évidemment, la mort du taureau et souvent par l'éventration des chevaux. Donc on a tout un discours moral, moralisant et même économique, puisqu'on note déjà au XIXe siècle que la viande d'un animal qui était maltraité et stressé avant sa mort est de plus mauvaise qualité. Donc il n'y a pas que des questions de sensiblerie ou de sensibilité, il y a aussi des questions économiques qui sont derrière ça. Alors ça concerne, j'allais dire, la biodiversité domestique, hein, les animaux domestiques, les animaux qui sont utilisés pour leur force de travail, ou ludiques, hein, s'il s'agit de combats de coqs, en particulier dans le nord de la France, et puis de la corrida qui arrive en France par le sud, bien sûr. Alors, il y a également, l'auteur ici, donc Valérie Chansigaud l'évoque, un essor de mouvements visant à protéger la faune sauvage, et donc en particulier les oiseaux. Hein, et au tout début du XXe siècle, elle évoque le fait que les sociétés d'ornithologues essaient de lutter contre la surexploitation des oiseaux. Surexploitation des oiseaux qui, dit-elle, était en partie due à la demande de plumes pour les chapeaux des dames, pour les vêtements et pour les habits des militaires. Ça, je crois que son article justement s'appelle voilà, des plumes de chapeaux à la protection de l'environnement. Comment on est arrivé à la question des plumes des chapeaux, question de la mode, à ces questions environnementales. Alors, il y a également un intérêt pour la protection d'oiseaux, alors là, du coup, qui ont un intérêt économique, en particulier les oiseaux insectivores. On lit, par exemple, dans les comptes rendus des sociétés agronomiques, des sociétés d'agriculture du XIXe siècle, beaucoup d'études, beaucoup de travaux, beaucoup d'observations sur le fait que les oiseaux insectivores sont de précieux auxiliaires de l'agriculture, puisqu'ils consomment des nuisibles du point de vue de l'agriculteur. Donc il y a, alors du coup, il y a aussi une réflexion, j'ai parlé de mouvements de chasseurs sur la chasse, alors qui vise non pas à interdire la chasse, mais à lutter contre ses excès. Particulier la chasse à l'éléphant. Il y a des images, des premières photos du 19e siècle qui montrent qui mettent en scène, je dirais, le carnage provoqué par la chasse aux éléphants. Et bien sûr, et elle y fait allusion dans son article, les mouvements qui sont incarnés par quelqu'un comme Aldo Leopold. Aldo Leopold, un Américain qui est de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, qui était à la fois chasseur, pêcheur, forestier et, on pourrait dire, écologiste. Et donc, il n'y avait pas forcément cette confrontation, cette opposition qu'on a trouvée plus tard dans le 20e siècle entre le chasseur pêcheur d'un côté et le protecteur de la nature de l'autre. Et donc, il s'engage notamment, enfin, il est à la tête d'un mouvement qui va beaucoup inspirer les mouvements écologistes des années 60 du XXe siècle, qui vise à protéger la faune, également à conserver les sols. Donc, voilà, je vous invite en particulier donc, à lire cet article qui est, comme on dit, disponible dans les kiosques. Alors, aujourd'hui, comment définit-on la biodiversité ? Au travers de tout ce que j'ai présenté il y a un instant, donc la complexité, le fait qu'au départ, historiquement, la question de la biodiversité est une question naturaliste, c'est ce qui relève de la protection de la faune et de la flore. Déjà, on voit bien le lien avec des questions éducatives, des questions économiques. Et comment, par exemple, à Rio en 92, définit-on la biodiversité ? Donc, dans ce texte, précisément, c'est l'article 2 de la Convention de la biodiversité biologique, donc juin 92, au sommet de la Terre. Alors, il va y avoir un petit peu de lecture. On va d'abord regarder un extrait de la définition en haut donc de 92 et qui va permettre de montrer que l'on donne actuellement de la biodiversité une définition que je qualifierais de multiscalaire, c'est-à-dire que la biodiversité se définit à différentes échelles. Donc, ainsi, à Rio, on définit dans cet article 2 de la Convention la biodiversité comme la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie. Donc, cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. Donc là, on a déjà deux niveaux, deux échelles, si vous voulez. La biodiversité, celle à laquelle on pense le plus, celle qui est le plus accessible, c'est évidemment la diversité des espèces. Donc le niveau spécifique est le niveau sur lequel on travaille le plus pour sensibiliser les personnes à ces questions-là, et peut-être également au niveau pédagogique, en tout cas pour les plus petites classes. Encore qu'on pourrait montrer qu'il est possible de complexifier les choses déjà auprès d'enfants. Donc, c'est le niveau de l'espèce, mais c'est la biodiversité, c'est également la biodiversité des interactions entre espèces. Et donc, l'autre échelle, qui est plus englobante, c'est la diversité des écosystèmes. Alors, c'est la définition suivante. Je ne sais pas si elle est... c'est un peu bas, non ? Voilà. Donc c'est c'est la déclaration de Paris sur la biodiversité qui est tirée de la conférence internationale à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, donc qui s'est tenue en janvier 2005. Ça s'appelait Biodiversité, Science et Gouvernance. Il y a des mots porteurs. On peut trouver le texte intégral donc sur recherche.gouv.fr. Donc qu'est-ce qui est indiqué ici ? Que la Terre abrite une extraordinaire diversité biologique, etc., donc qui inclut non seulement les millions d'espèces qui habitent notre planète, mais aussi la diversité de leurs gènes. Donc là, je dirais qu'on a la troisième échelle importante. Donc c'est la diversité des gènes, la diversité des espèces, la diversité des écosystèmes. Et il y aurait d'autres échelles plus fines, mais en tout cas, ce sont les trois grandes échelles à prendre en compte. Alors, quand je dis d'autres types d'échelles, on dit aussi la diversité des physiologies, la diversité des comportements. Donc là, ça renvoie à l'éthologie. Donc la multitude des interactions entre elles et leur environnement physique, la variété des écosystèmes, etc. Elle est le produit de plus de 3 milliards d'années d'évolution et constitue un patrimoine naturel, une ressource vitale dont l'humanité dépend. Alors là, on arrive très vite, et je vais le développer un peu tout à l'heure, à la question des valeurs. Quelles sont les différentes valeurs qui sont attribuées à la biodiversité ? Donc valeurs esthétiques, spirituelles, culturelles et d'agrément, dit-on ici. L'intérêt de la biodiversité, c'est qu'elle fournit également des biens, directement ou indirectement, ainsi que des services. Et enfin, pour vous montrer jusqu'où cette question est arrivée, dans le journal officiel numéro 87 du 12 avril 2009, on trouve une allusion à la biodiversité et le lien qui est fait entre la biodiversité et le développement durable. Le maintien de la biodiversité est une composante essentielle du développement durable. Donc là, je dirais que cette phrase tirée d'un journal officiel de 2009 est, la conséquence des travaux qui ont été effectués en 92, donc à Rio, où là, on a effectivement à la fois scientifiquement et, je dirais, institutionnellement relier la biodiversité à la problématique de développement durable. Alors, y a d'autres subdivisions qui sont opératoires quand on travaille sur la diversité spécifique, c'est-à-dire sur l'échelle de l'espèce, puisque c'est une fois encore l'échelle qui est la plus accessible, peut-être la plus facile à inventorier et la plus concrète. Alors, on distingue à ce niveau donc spécifique trois autres types d'échelles, et vous allez voir que ça peut donner lieu à des prises de décisions un peu différentes. Alors, on dit il y a l'échelle alpha, bêta et gamma. Alors, l'échelle alpha, c'est quoi ? C'est l'échelle spécifique donc de la biodiversité des espèces qui rend compte de la richesse d'un habitat uniforme. C'est ce que les Américains appellent la « within habitat diversity », c'est-à-dire à l'intérieur d'une forêt, qui constitue un habitat relativement uniforme. On fait, si possible, l'inventaire le plus exhaustif possible de la biodiversité animale, végétale. Pourquoi pas donc la microfaune, la microflore du sol, etc. Donc, par exemple, un bois, une prairie, une haie, voilà, peut constituer un milieu relativement uniforme. Au sens paysager du terme. Et donc, quand on fait l'inventaire de la biodiversité de cet habitat, on s'intéresse à l'échelle alpha. Alors, l'échelle bêta va correspondre au calcul du taux de remplacement des espèces dans une zone qui est caractérisée par une mosaïque d'habitats comparés entre eux. Donc là, du coup, on va prendre la biodiversité de la forêt, la biodiversité de la prairie qui entoure la forêt, et puis la biodiversité de la haie dans la même région géographique. Et puis on va comparer les inventaires. C'est ce que les Américains appellent la Between Habitat Diversity. Et donc ça mesure, une fois encore, le taux de remplacement des espèces, parce qu'il est évident qu'une espèce relativement ubiquiste, c'est-à-dire qui va être présente dans le bois, la prairie et la haie, sera plus en sécurité que l'espèce qui n'est présente spécifiquement que dans le bois, l'espèce qui va être endémique du bois. Donc ça signifie que si le bois disparaît, l'espèce disparaît localement. Alors que dans l'autre cas, si le bois disparaît, eh bien l'espèce survit parce qu'elle est aussi présente dans la prairie et dans la haie. Donc ça a des conséquences pratiques, si vous voulez, en termes d'aménagement du territoire, si on essaie d'étudier l'impact sur la biodiversité d'un aménagement. De la création d'un bois ou de sa suppression ou de son aménagement, enfin, etc. Alors, il y a une troisième échelle qu'on appelle l'échelle gamma. Alors, elle, c'est sur un territoire beaucoup plus important. C'est à l'échelle d'un pays ou d'une région biogéographique, par exemple. Ça va être la biodiversité du Jura, la biodiversité du versant nord des Alpes. Donc, ce sont des échelles biogéographiques plus vastes. Et là, ce qui va attirer l'attention, c'est l'évolution des effectifs des espèces, en particulier les espèces menacées ou rares. Là, on va s'intéresser aux espèces menacées, aux espèces rares, et on va étudier l'évolution de leur effectif à cette échelle biogéographique. Alors, bien sûr, il y a interaction entre les trois échelles, comme vous voulez, mais du coup, quand on dit biodiversité, il faut préciser de quelle biodiversité je parle. Quand je dis biodiversité et quand je fais une étude de la biodiversité, j'étudie quoi ? La variabilité génétique ? J'étudie la variété des espèces ? J'étudie la variété des milieux, des écosystèmes ? À quelle échelle je me situe ? Et si j'étudie la diversité des espèces, je l'étudie dans quel but ? Et quelles informations je veux obtenir pour peut-être mettre en place des modèles de protection. Alors, quand je disais tout à l'heure que le niveau génétique est finalement pas aussi complexe que ça à aborder en classe, même dans le premier degré, je pense que tout le monde y avait pensé, évidemment, c'est la question des variétés. C'est-à-dire là, ce sont des variétés... Ah oui, si j'allumais, ce serait mieux. Là, ce sont des variétés de tomates. Il y a en Indre-et-Loire, du côté de Mont-Louis, il y a un châtelain, c'est le château de la Bourdaisière, qui a réuni 200 variétés de tomates. Donc là, si vous allez visiter ces cultures, et puis même si vous mangez chez lui, il y a un restaurant où il propose des menus uniquement basés sur la tomate. Donc il y a des tomates jaunes, vertes, noires, rondes, carrées, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Et bien sûr, si vous visitez avec des classes ce type d'endroit, eh bien, vous êtes confronté directement à l'expression d'une diversité génétique. Alors ça se traduit au niveau du phénotype, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire des questions de forme, de couleur, etc. Donc là, on peut très bien travailler le niveau génétique de la biodiversité de façon extrêmement concrète. Alors là, on a le maïs, on a l'association des croqueurs de pommes, c'est une association nationale qui se réunit périodiquement et qui a retrouvé, sauvé, sécurisé une extraordinaire variété de pommes. Donc là, on travaille effectivement sur le niveau génétique. Alors, je voudrais m'arrêter maintenant quelques instants aussi sur ce qui était évoqué dans la définition proposé par le forum de janvier 2005 sur biodiversité, sciences et gouvernance, à savoir sur la question de la valeur. Quelle valeur attribuer à la biodiversité est-ce qu'il y a évidemment une valeur économique, mais est-ce qu'il y a d'autres types de valeurs qui peuvent être mises en avant? Alors, je dirais que historiquement, il y a un exemple tout à fait intéressant, celui de l'huître, de l'ostréiculture. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, on s'est intéressé à cette espèce, on pourrait dire à la conservation des huîtres, mais pour des raisons strictement économiques. La valeur économique de cette espèce a été mise en avant. Alors, très précisément, c'est dans le dernier tiers du 19e siècle qu'un biologiste allemand qui s'appelle Karl Möbius a été missionné pour étudier les causes de l'épuisement des bancs d'huîtres dans le Schleswig-Holstein. C'est un lander septentrional d'Allemagne. Et donc là, il y avait effectivement un problème. On peut dire que l'ostréiculture naissante, hein, on peut dire que ça se structure dans les années 40 du 19e siècle, l'ostréiculture, connaissait déjà des situations de crise et il y avait une baisse de la productivité. Donc on a demandé à ce scientifique, qui était un zoologiste, d'étudier les causes de l'épuisement des bancs d'huîtres. Et donc il a observé évidemment les bancs d'huîtres d'Allemagne, il est allé en Angleterre et il est allé sur nos côtes charentaises. Il est allé à Arcachon en particulier, qui connaissait là aussi une crise importante. Et alors, la conclusion qui, à l'époque, était innovante, je dirais, par rapport au savoir scientifique du temps, était Möbius était la suivante. Pour comprendre les causes de l'épuisement des bancs d'huîtres, il ne faut pas seulement étudier la biologie de l'huître, il faut également étudier la communauté animale et végétale qui est en relation avec l'huître. Et il a proposé un nouveau terme qui était le terme de biocénose, donc c'est un terme de 1875. Il a proposé le terme de biocénose pour désigner une communauté animale et végétale en interaction dans un même milieu. Et donc, c'est en étudiant cette donc au départ, il y a une commande économique, si vous voulez, et grâce à cette commande économique, il crée un concept qui est devenu un concept central dans l'écologie écosystémique, l'écologie systémique, puisque la biocénose, c'est une des deux composantes de l'écosystème avec le biotope. Donc là, si vous voulez, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que au travers d'une nouvelle activité économique qui répond à une nouvelle demande de la part des consommateurs, eh bien on va surdévelopper l'élevage des huîtres et il y a un certain nombre de problèmes économiques qui amènent à constituer des savoirs scientifiques relatifs au fonctionnement de la biodiversité vu comme fonctionnant au sein d'une communauté interagissante d'une certaine façon. Alors actuellement, quelle est un petit peu, j'allais dire, la typologie des valeurs que l'on peut attribuer à la biodiversité? On peut dire d'abord qu'il y a une valeur d'usage direct. Alors, ce à quoi s'intéressait Möbius, c'est à ce type de valeur, finalement. C'est-à-dire que la biodiversité nous fournit des denrées alimentaires, nous fournit du bois pour le chauffage, elle nous fournit également un certain nombre de biens qui sont utilisés dans l'industrie, dans la pharmacie. Hein, c'est un ensemble de ressources génétiques liées à la biodiversité. Donc là, c'est une valeur directe. On utilise directement la biodiversité, soit les espèces, soit leurs gènes, pour développer l'industrie pharmaceutique. Et elle a également une valeur d'usage directe dans le cadre d'un certain nombre d'activités humaines, le jardin botanique, le parc de loisirs. Donc on est utilisateur direct de cette biodiversité-là pour nos activités sportives, un certain nombre d'activités sociales. Alors, la valeur d'usage indirect, cette fois, renvoie plutôt à des services fournis. On parle quelquefois de fonctions écologiques. Par exemple, la forêt qui fixe le carbone. Donc là, elle nous rend un service écologique. En ce sens-là, elle a une valeur indirect. Et ça, c'est intéressant parce que ça a été discuté et la marchandisation de la biodiversité est justement au cœur de ces questions-là. Donc, des fonctions écologiques, absorption de déchets, notamment absorption de carbone, drainage des sols, équilibre du régime des eaux, du régime des pluies, par exemple, etc., régulation climatique. Donc, un certain nombre de chercheurs, je pense à un des pionniers, c'est quelqu'un qui s'appelle Robert Constanza, qui publie en 1997 dans la revue Nature une étude de 16 écosystèmes, à la fois des écosystèmes marins et des écosystèmes terrestres, et il fait la liste de 17 types de services rendus par la biodiversité à l'humanité, donc ceux que j'évoquais là, plus régulation des gaz, contrôle de l'érosion, cycle des nutriments, etc. Donc ça, ce serait donc valeur d'usage direct et valeur d'usage indirect. Après, il y aurait une valeur dite d'option. Alors ça, c'est tout à fait intéressant, la valeur d'option, puisqu'elle reflète finalement la valeur future, non encore certaine, de la biodiversité. Alors ceci peut être lié au champ d'application du principe de précaution. Le principe de précaution, qui est au cœur des réflexions sur le développement durable, et donc, exemple, les OGM. À partir du moment où un pays applique ou appliquerait le principe de précaution dans un sens très strict, eh bien, on pourrait dire que la valeur si on interdit la culture des OGM au niveau d'un territoire national, comme ça a été le cas en France partiellement, eh bien, du coup, la valeur économique des OGM n'est qu'une valeur potentielle, c'est-à-dire qu'elle est soumise à des changements de politique, législatifs, etc. Donc peut-être que la valeur des OGM va être une valeur réelle, une valeur d'usage dans certains pays, dans un certain cadre légal, et dans d'autres, ce ne sera qu'une valeur d'option, voire une valeur future, voire donc avec une certaine incertitude. Il y a également une valeur symbolique, donc là, elle est de nature, je dirais, subjective, et elle renvoie à certaines autres valeurs. Par exemple, il y a des espèces charismatiques, comme le cèdre du Liban ou le panda, auxquelles on attribue une valeur qui dépasse peut-être dans l'esprit de ceux qui en sont convaincus les valeurs écologiques. Hein. Bon, on sait bien que le panda est une espèce parapluie, il y a une valeur écologique importante au-delà du panda, mais en tout cas, on a là une valeur symbolique qui se centre sur ce qu'on pourrait appeler de la biodiversité extraordinaire, des espèces médiatiques. Hein. Et cette valeur symbolique tend quelquefois à négliger la biodiversité ordinaire. Je pense à une opération fort intéressante sur les arbres remarquables, par exemple. Donc, comment protéger, sauver, pérenniser un certain nombre de vieux arbres, d'arbres patrimoniaux. Alors, c'est quelquefois un petit peu de l'acharnement thérapeutique hein, quand on a de très vieux arbres qui sont malades. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a le côté extraordinaire, le côté culturel, si vous voulez, qui donne à cet arbre une valeur symbolique forte. Enfin, il y aurait une valeur dite de non-usage ou une valeur intrinsèque. C'est-à-dire, on pourrait considérer, ce serait un petit peu une posture qu'on a travaillée hier dans l'atelier, comme l'homme étant extérieur à la nature ou observateur de la nature. Et là, du coup, si l'homme pourrait finalement considérer que la biodiversité a une valeur indépendante de l'usage qu'il peut en faire. Donc on a ici tous les débats sur les postures anthropocentrées ou biocentrées, c'est-à-dire considérer que l'homme est au centre de l'environnement et donc est à la fois le gestionnaire, l'utilisateur de la biodiversité et le régulateur des populations, ou dire attention, de quoi on se mêle, de quel droit interviendrions-nous sur sur la biodiversité. Elle a une valeur en elle-même, on n'a pas à se mêler de tout ça, c'est pas à nous de décider de façon utilitariste du sort de la biodiversité qui existait bien avant nous et qui continuera à exister bien après nous. Alors le problème, bien sûr, c'est que si l'on ne donne pas de valeur à la biodiversité, qu'elle soit intrinsèque, symbolique, d'usage, eh bien si on ne donne pas de valeur à la biodiversité, donc une fois encore qu'elle soit monétaire ou symbolique, ben elle risque de ne rien valoir du tout. Hein, peut-être par définition, ce qui n'a aucune valeur peut être gaspillé. Donc je pense que ce débat sur les valeurs est fondamental, me semble-t-il. Alors, c'est une question qui a été posée à une équipe constituée par le ministère de l'écologie, qui a demandé de rendre un rapport, il était rendu en 2009, intitulé « L'approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes ». Et finalement, on pose la question très directement, un microbe, ça vaut combien ? Un insecte, ça vaut combien ? Une forêt, ça vaut combien ? Dans une idée, voilà, on est dans un, c'est la loi du marché, hein, c'est une monétarisation de la biodiversité, et donc la perspective d'une marchandisation de la biodiversité. Donc, on proposait à cette équipe d'attribuer une valeur monétaire de référence aux services rendus à la société par la nature. Et de fait, cette équipe de recherche a été constituée à la suite du Grenelle de l'environnement de 2016, parce que c'était un des engagements du Grenelle de créer un groupe de recherche sur ces questions de biodiversité. Alors, le travail a été dirigé par un biologiste qui s'appelle Bernard Chevassu-Aulouis, et qui indique dans son rapport, je le cite, oui, il s'agit de produire une valeur de référence permettant d'anticiper la perte économique d'une biodiversité à laquelle on ne prête pas attention. Hein, donc, attribuer une valeur référence qui permet d'anticiper la perte économique d'une biodiversité à laquelle on ne prête pas attention. Et il donne un exemple, et du coup, un certain nombre de calculs ont été faits. Lorsqu'on construit une usine à la place d'une forêt, on perd une capacité à fixer le CO2. Il va falloir pouvoir mesurer ce qui est le plus rentable pour la société. On est en termes de rentabilité ici. Et donc, on a évalué... on a monétarisé, si vous voulez, les services rendus par une forêt française. Alors, selon le type de forêt, c'est évalué à entre 500 et 2000 euros par hectare et par an. En moyenne, on arrive à 970 euros par hectare et par an, donc qui est l'évaluation monétaire des services rendus par une forêt française. Alors on l'a fait pour les prairies, par exemple les prairies utilisées de manière extensive, on a à peu près 600 euros par hectare et par an. Alors le même chercheur, donc le Bernard Chevassu-Aulouis, donc le biologiste, à la fois nuance un petit peu le premier propos et surtout alerte un petit peu sur les dérives possibles de cette approche économique de la biodiversité. Et il indique une valeur économique peut introduire implicitement l'idée d'une marchandisation de la biodiversité. Ah bon ? C'est-à-dire la possibilité de l'échanger avec d'autres biens, alors que l'objectif est de stopper son érosion. Autrement dit, si on crée une structure, si on aménage, et si on considère qu'on rend les mêmes services, ben on peut très bien se passer de la forêt. Alors, imaginons, j'invente un dispositif technologique, une usine qui va rendre les mêmes services que la forêt par rapport à la fixation de CO2. Ben on peut substituer, bien sûr, cette structure à la forêt. Hein, donc il y a une valeur possible de remplacement. Et d'autres, évidemment, ont réfléchi à l'effet induit par cette monétarisation. Il y a un économiste de l'environnement qui s'appelle Franck-Dominique Vivien, qui craint, je le cite, que certains acteurs usent de cet outil à des fins marchandes. Et il prend l'exemple des grands propriétaires forestiers qui pourraient, par exemple, exiger des subventions à hauteur de ce que leur domaine rapporte à la société. On imagine éventuellement le chantage. Dire, vous me donnez 900 euros par an et par hectare ou je coupe tout. Pourquoi pas ? Donc là, je force un petit peu le. Mais bon, c'est pas rien puisque 50% des forêts françaises sont privées quand même. Et on a effectivement, on peut être assez fier de notre parc forestier, hein, qui est plutôt en extension. Donc il y a tout ça qui est en jeu, bien sûr. Et donc pour Raphaël Larère que je mentionnais précédemment, je le cite. Penser que la diversité biologique a une valeur économique revient à considérer que la disparition d'éléments de nature en un lieu donné peut être substituable en un autre lieu. On peut délocaliser là aussi si vous voulez. Voilà, donc en basculant sur des valeurs instrumentales comme la monnaie, la valeur intrinsèque, dit-il, du vivant, eh bien cette valeur en soi s'évanouit. Il n'y a plus de valeur intrinsèque, il n'y a plus que des valeurs d'usage, directes ou indirectes, ou des valeurs d'option. Alors, ceci correspond à ce qu'on pourrait appeler une approche faible du développement durable. C'est assez intéressant à analyser en fonction de ce critère-là. L'approche faible du développement durable est une approche qui intègre le principe de substituabilité. C'est celui qu'on évoquait ici, c'est-à-dire qu'on peut effectivement un certain nombre d'innovations technologiques peuvent permettre des substitutions. Alors c'est quelque chose qu'on fait par rapport au pétrole, par exemple. Comment continuer à faire rouler nos voitures si on ne peut plus mettre de pétrole dedans ? Alors, il y a effectivement le pétrole vert, il y a la biomasse, il y a le biogaz, etc. Bon, avec les limites qui ont été évoquées, mais en tout cas, on est sur un principe de l'application du principe de substituabilité. Donc, c'est une approche faible du développement durable, qui est finalement l'approche, j'allais dire, politiquement correcte. Hein, on est entre nous. Hein, je veux dire que l'approche globale, l'approche consensuelle du développement durable, c'est une approche faible. Alors, il y a certains prônent plutôt une approche forte du développement durable en disant attention, si on revient à la définition originelle du développement durable, permettre aux générations futures de répondre aux besoins qui sont les leurs, eh bien, il faudrait, par exemple, si je prends l'exemple du pétrole, arrêter d'exploiter le pétrole avant qu'il n'y en ait plus. Parce que les générations actuelles n'ont pas le droit de décider à la place des générations futures en disant, bon, ben, écoutez, le pétrole, c'est fini, il ne faudra pas compter dessus. Ben, si, dans une approche forte du développement durable, c'est-à-dire il faut arrêter l'exploitation d'une ressource avant son épuisement, parce qu'on ne sait pas si les générations futures, avec du pétrole, feront des spaghettis, j'en sais rien, enfin n'importe, je sais pas, on ne peut absolument pas imaginer, nous avec du pétrole, on a réussi à faire du plastique et énormément de matériaux, peut-être qu'avec le pétrole, on pourrait faire d'autres substances, d'autres matériaux, etc., sur lesquels on n'a aucune idée. Donc ça, c'est l'approche forte du développement durable. Donc là, dans le cadre d'une approche faible du développement durable appliquée à la biodiversité, eh bien, on a ce principe de substitution qui est centrale. Alors, j'en viens à mon deuxième point, qui était donc comment lutter efficacement contre l'érosion de la biodiversité, quel modèle promouvoir. Et j'ai évoqué en introduction deux disciplines, deux champs de recherche qui sont développés dans les années 80 sur l'écologie des paysages et la biologie de la conservation. Ça, je la fais à chaque fois. La biologie de la conservation. Voilà. Alors, ceci s'inscrit dans le cadre d'une théorie qu'on appelait la théorie des peuplements insulaires, qui a connu un grand succès dans les années 60 et qui a permis de modéliser la dynamique de la biodiversité. Alors ici, la biodiversité spécifique. Alors, c'est une théorie d'un mathématicien et biologiste qui s'appelle MacArthur, c'est Robert Elmer MacArthur, et Wilson, auquel j'ai fait allusion tout à l'heure à propos du forum sur la biodiversité. Donc on dit que c'est le modèle de MacArthur et Wilson, si vous voulez, qui a modélisé puis calculé le taux d'extinction des espèces dans une île. Alors, des îles géographiques, c'est décidément un peu sombre. Donc, on a une île A et une île B. Et ici, on a le continent source. Il est évident que la biodiversité du Nil est liée aux échanges entre le continent source ou les continents sources les plus proches. Alors, logiquement, c'est vraiment une hypothèse très triviale au départ, l'île qui sera la plus loin du continent source aura une biodiversité moins grande que l'île qui sera plus proche du continent source. Et donc, ça donne lieu à une courbe entre le taux d'immigration et le taux d'extinction. Donc, on fait un calcul qui prend en compte à la fois le taux d'immigration de la biodiversité dans cette île, dans ce milieu insulaire, et donc son taux de disparition. Et ça donne lieu à une valeur d'équilibre, si vous voulez, donc qui varie selon la proximité de l'île par rapport à ce continent. Donc, c'est un peu la base, si vous voulez, de la théorie insulaire. Donc, il dit le taux d'extinction des espèces d'une île géographique est d'autant plus élevé que celle-ci est moins étendue, et le taux d'immigration d'autant plus faible que l'île est éloignée du ou des continents sources. Alors, cela va donner lieu à un certain nombre de débats et surtout à l'introduction du modèle à des îles biogéographiques. Alors, on pourrait dire que le diffuseur, le médiateur de cette théorie, c'est un biologiste ornithologue au départ de Montpellier qui s'appelle Jacques Blondel et qui écrit, c'est un ornithologue, oui, et biogéographe, qui écrit au sujet de cette insularité en 1979, je le cite, « L'insularité est un phénomène universel. » Si on entend par île un biotope isolé au sein d'une matrice de milieux différents, eh bien du coup un bosquet au milieu de la plaine de Beauce est une île, au sens biogéographique du terme. Le sommet d'une montagne, une clairière au milieu de la forêt, un jardin public dans une grande ville, un village perdu dans la campagne, une réserve naturelle constituent autant de milieux qui sont, en tout cas pour certaines espèces et pour certaines communautés, des îles, donc au même titre que des îles océaniques. Donc là, on a un peu une universalisation du concept d'île. Et donc là, il montre comment, effectivement, il peut y avoir à la fois un effet de barrière et un effet de circulation entre des vraies îles continentales et puis des îles au sens biogéographique du terme. Alors, cela dit, un certain nombre de critiques ont été portées au modèle de l'île. Alors, on peut peut-être les symboliser par ce qu'on a appelé la querelle Sloss. En gros, si vous voulez, plus l'île est loin du continent source, moins elle a de biodiversité, et plus l'île, plus la réserve naturelle, par exemple, aura une surface importante et plus elle aura de biodiversité. Ça semble tout à fait logique. Et pourtant, ça ne marche pas forcément comme ça. Donc, selon le modèle de MacArthur et Wilson, donc bien sûr, ce qui est à gauche est meilleur que ce qui est à droite. Hein. Il vaut mieux une grande réserve ou une grande île qu'une petite. Voilà, il vaut mieux une réserve de grande surface que quatre îles qui cumulent la même surface. Il vaut mieux que si elles sont de petite surface, il vaut mieux qu'elles soient proches les unes des autres qu'éloignées, bon, etc. Il vaut mieux qu'il y ait des corridors plutôt qu'il n'y en ait pas. Donc là, c'est le modèle, ce sont les différentes configurations géographiques donc d'air protégé en lien avec la protection de la biodiversité. Alors pourquoi querelle Sloss? Alors ça vient c'est single large or several small. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux une seule réserve de grande taille ou plusieurs réserves de petite taille? Alors, il se trouve qu'un certain nombre de recherches mettent l'accent sur le fait que le modèle de MacArthur et Wilson n'a peut-être pas pris en compte suffisamment des facteurs liés à l'endémisme, des facteurs liés à l'évolution, aux interactions des êtres vivants. Enfin, disons que le modèle MacArthur-Wilson ne fonctionne pas toujours très bien. Et en tout cas, ce qu'il ressort et qui est important par rapport aux décisions que l'on prend actuellement dans le domaine de la protection de la biodiversité, c'est le fait que si la biodiversité est enfermée dans un milieu, si elle est sanctuarisée, eh bien à terme elle est condamnée. Donc ça, on le voit très bien. Les études, les inventaires réalisés dans une réserve sur 20, 30 ou 40 ans montrent qu'il y a immanquablement, même dans une réserve bien gérée, bien policée, si vous voulez, eh bien, il y a immanquablement une inéluctable extinction de la biodiversité. Alors du coup, un certain nombre de recherches qui s'inscrivent donc dans le cadre de la biologie de la conservation et de l'écologie des paysages vont finalement apporter un modèle alternatif d'une certaine façon. Alors de quoi s'agit-il ? L'écologie des paysages, contrairement à l'écologie scientifique telle qu'elle s'est constituée à l'origine, s'appuie sur des milieux hétérogènes. Je m'explique. L'objet qui est étudié par l'écologie scientifique, c'est l'écosystème. L'écosystème, c'est un milieu relativement homogène par sa communauté animale et végétale, par sa biocénose, par son biotope. L'écologie des paysages s'intéresse à des mosaïques de milieux, à des mosaïques d'écosystèmes et inclut surtout les activités humaines. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'un paysage, vous avez des milieux entre guillemets naturels, vous avez des territoires agricoles, urbains, périurbains, vous avez des infrastructures, vous avez des espaces verts, etc. Donc cela constitue une mosaïque paysagère. Et la question que pose l'écologie des paysages est celle de la circulation de la biodiversité. C'est-à-dire qu'un certain nombre de travaux, sur lesquels je passe vite maintenant, montrent que pour espérer pérenniser la biodiversité, il faut la désanctuariser et lui permettre de circuler. Donc comment créer, reconstituer, consolider ce qu'on appelle maintenant des corridors biologiques, des couloirs biologiques, des biocorridors, on appelle ça des liaisons paysagères, des coulées vertes, des coulées bleues pour les milieux, pour les rivières, etc. Et donc, on essaie d'étudier la façon de créer des corridors et puis surtout, on fait un calibrage des corridors pour déterminer à quelles espèces on permet de passer et à quelles espèces on interdit le passage. Ça, c'est tout à fait clair. Un corridor, on peut le voir aussi comme une structure qui permet la circulation de la biodiversité, mais aussi une structure qui fait obstacle à la circulation d'un certain type de biodiversité. Je vais prendre un exemple tout à fait visuel, je dirais, c'est celui qui est ici, c'est un écopont. Voilà, c'est donc un pont qui est engazonné, même il y a des arbustes, etc. Alors, en fonction du type d'écopont, hein, il y a toute une typologie qui définit sa structure, sa largeur, etc., etc. Eh bien, on va favoriser un type de biodiversité. Donc là, ce type d'écopont, par exemple, est très favorable à la circulation des gros mammifères. Donc ce type d'écopont est très apprécié par les chasseurs, par exemple. Donc vous avez une autoroute qui coupe en deux une forêt et donc permettre la circulation des grands mammifères, c'est pérenniser la population de ces mammifères et effectivement ça rend des services quand on est chasseur, par exemple. Donc il y a également donc quelque chose que vous connaissez sans doute aussi, ce qu'on appelle les passages à faune, hein, les batracoducs. Donc, avec l'écologie des paysages, s'est développée une autre sous-discipline qu'on appelle l'écologie des routes, ce qui paraît tout à fait contradictoire et paradoxal. Mais en tout cas, c'est une réflexion sur l'impact, sur l'empreinte écologique d'une route. Donc, comment diminuer l'empreinte écologique de la route, par exemple, pour permettre à des batraciens d'aller s'ébattre joyeusement dans une mare dont ils ont été coupés par la route. Eh bien, on crée des sortes de buses souterraines, des passages à faune, des batracoducs, donc, par exemple. Alors, il y a des aménagements de chaque côté de l'autoroute. Alors, ce n'est pas simplement un tuyau avec un petit peu d'humidité. Il faut aussi qu'à l'entrée de ce Batraco-Duc, on ait des installations qui favorisent, qui soient attractives pour les batraciens. Hein. Donc ça, c'est tout à fait... Alors, il y a des passages à mammifères, par exemple, pour la marmotte. Il y a des passages à marmotte. Et alors, on fait des comptages. Hein. Il y a des détecteurs de mouvement. Et donc, il y a des photos qui sont prises. À chaque fois qu'un mouvement est détecté, on peut voir effectivement et compter le nombre d'animaux qui passent. J'avais vu un cliché comme ça où on voyait, c'était tout à fait touchant. Une marmotte avec ses petits qui traversaient comme ça, tac, 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 tac. Donc c'est très mignon. Et puis alors, de temps en temps, il y a évidemment des incidents, c'est-à-dire que là, à un moment donné, étaient photographiés des gamins qui passaient en dessous, évidemment. Donc ça aussi, il faut sécuriser. Et il y a des effets tout à fait pervers, parce que les prédateurs qui sont pas fous, se mettent à la sortie des bus, tap-a-tap, 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 et on attend que ça vienne, on est au flunch, si vous voulez. Hein. Les grenouilles, il n'y a qu'à les cueillir à l'arrivée. Donc ça, c'est tout à fait intéressant aussi. Alors, ça c'est... Alors, on est en train, actuellement, de mettre en place et d'évaluer l'impact de ces corridors qui visent à remettre en circulation la biodiversité qui quelquefois était un petit peu enfermée ou un peu sanctuarisée. Donc là, ce sont les corridors biologiques de la vallée de Grésy-Vaudan dans l'Isère. Hein, donc il y a toute une cartographie à partir d'une rivière. Donc on peut reconstituer des forêts-galeries, par exemple, des structures comme ça. On a, par exemple, des projets immobiliers. Alors ça, c'est un projet. Un projet fantasmé sans doute, où là, donc voilà comment intégrer de l'habitat dans une coulée verte, c'est-à-dire comment diminuer l'impact écologique, l'empreinte écologique de cet habitat en maintenant des coulées vertes, des zones boisées, etc., qui vont permettre à la biodiversité de circuler. Peut-être connaissez-vous également ces aménagements, des façades végétalisées. Hein, du Quai Branly. Bon, ça, le Marais de Galuchet, c'est une... parce qu'il y a des travaux actuellement dans les Deux-Sèvres qui visent à essayer de protéger ce marais et de l'intégrer dans une coulée verte. Donc voilà, les toits végétalisés, etc. Donc voilà, c'est essayer d'intégrer, et là on est vraiment au cœur de la question du développement durable, comment intégrer les activités humaines, les habitats humains dans un système qui permettent à la biodiversité d'être sauvegardée, et même comment compenser. On est en train de réfléchir à des phénomènes de compensation, c'est-à-dire que si on réalise une construction, on peut évaluer la perte, alors en termes monétaires, je reviens aux travaux issus du Grenelle, la perte économique liée à la perte de biodiversité par l'installation d'un parking ou d'un centre commercial ou d'un bâtiment, quel qu'il soit. Et donc, il peut y avoir un phénomène de compensation. On dit, voilà, on va compenser en créant un toit végétalisé. Et on est même en train de réfléchir à des habitats à biodiversité positive. Vous allez me dire, c'est peut-être farfelu. Hein, c'est dans le... intégrer ça dans les normes HQE, c'est-à-dire de haute qualité environnementale. Il y a 14 cibles qui concernent la pollution, l'énergie, les matériaux, les nuisances sonores, visuelles, etc. Et on réfléchit à l'intégration d'une 15e cible qui serait la biodiversité. Et un bâtiment à biodiversité positive, comme les bâtiments à énergie positive, ce seraient les bâtiments dont la création entraînerait un enrichissement de la biodiversité plus que si le bâtiment n'était pas là. Ça va loin. Donc ça, c'est bon, ce sont des travaux qui sont tout à fait intéressants actuellement. Et donc, vous voulez, les différents travaux ont amené peut-être à ce type de schéma. Donc on a, voilà, en haut, ce qui est représenté là, c'est les principaux éléments qui sont à la base d'un réseau écologique, au sens où on l'entend maintenant, donc dans lequel on a des zones nodales qui peuvent représenter les réserves initiales, les sanctuaires initiaux, si vous voulez. On a des corridors qui peuvent être des structures linéaires avec des éléments relais, etc. Ou à l'échelle d'un paysage, ça constitue des matrices paysagères. Donc, un réseau de corridors qui va permettre à la diversité de ces sanctuaires de circuler. Et puis, des zones tampons qui permettent de limiter la pression en lisière, de telle sorte qu'on ait finalement dans ces zones en lisière des servitudes écologiques. C'est-à-dire le fait que certaines activités économiques ou de loisirs seraient possibles et devraient être régulées. Donc là, c'est la base même des réseaux écologiques ou des réseaux verts tels qu'ils sont pensés actuellement et expérimentés. Et puis on a repéré quelles étaient les différentes fonctions des corridors, donc qui peuvent servir d'habitat, de conduit, de barrières, de puits, de sources, de filtres, hein, en fonction alors du type d'aménagement, de végétaux, d'emboisement qui est fait, par exemple, en fonction du contexte paysager, bien sûr. Alors, c'est une affaire qui est, je dirais, internationale et dans laquelle sont impliquées toutes les réserves de la biosphère. Hein, le programme Man and Biosphere, l'homme et la biosphère, qui a été initié dans les années 70 du XXe siècle, a abouti à la création de quelques 500 réserves, qui sont des réserves sanctuaires. Et donc, elles sont évidemment intégrées au projet. Et l'idée, c'est d'intégrer ces réserves de la biosphère à des réseaux écologiques permettant la protection durable de la biodiversité et intégrant des activités économiques, agricoles, sociales, etc. Donc, il y a énormément de contraintes. Et là, on est tout à fait au cœur de la complexité des problèmes tels qu'elles se posent dans le cadre du développement durable. Et autre problème important, c'est celui des priorités. Quelles vont être les zones de la planète dans lesquelles il va falloir agir le plus vite, puisqu'on s'aperçoit que depuis des décennies, on dépense quand même pas mal d'argent pour protéger la biodiversité, et la biodiversité continue à être en érosion. Donc il va falloir cibler quelles sont les priorités, il va falloir mettre de l'argent là où c'est nécessaire, et peut-être faire des choix. Et donc on a défini ce qu'on appelle des hotspots de biodiversité, il y en a 30, 34, 35. Et donc qu'est-ce qu'un hotspot, qu'un point chaud de biodiversité? Eh bien c'est une zone qui se caractérise par une très grande diversité biologique en fonction de la surface du territoire. Et c'est également une zone dans laquelle l'extinction de cette biodiversité est particulièrement rapide. Donc c'est à la fois des zones très riches, ces zones de méga biodiversité, dit-on, et des zones extrêmement menacées. Alors il y a un territoire que je connais un peu qui en Amérique centrale, au niveau du le Costa Rica et l'Amérique centrale en particulier, mais il se trouve que le Costa Rica a développé des programmes d'inventaire qui font qu'on connaît mieux la biodiversité du Costa Rica que celle des pays environnants. Et donc on a à peu près, on aurait 8%. Avec les projections qu'on évoquait tout à l'heure, à peu près 8% de la biodiversité mondiale sur 0,5% du territoire des terres émergées. Donc le 0,5% corrélé avec le 8% fait conclure qu'on est dans une zone de méga biodiversité, que donc l'Amérique centrale est un des points chauds. Il y en a d'autres. Et donc il y a des essais, je pensais en Chine et ailleurs, de mise en œuvre, de réaménagement territorial, si vous voulez, permettant de sauvegarder la biodiversité et les activités économiques. Donc c'est vraiment une grosse affaire, si vous voulez. Alors, qui intéresse? Alors, ça intéresse la Chine et l'Amérique centrale, mais c'est quelquefois à nos portes. Hein. Chaque fois que vous entendez parler de questions des problèmes de coulées vertes, de corridors, j'évoquais le marais de Galuchet parce que je m'y suis intéressé il y a peu. Comme je travaille essentiellement dans les Deux-Sèvres, c'est aux portes des Deux-Sèvres. Bon, il y a d'autres, effectivement, d'autres lieux qui, localement, sont des lieux de réflexion sur la manière d'aménager le territoire pour respecter ces différentes contraintes. Je n'ai aucune idée de l'heure. Je voulais juste peut-être conclure à ce niveau-là. Il y a une image que... Quel est le cadre? C'est intéressant aussi par rapport au cadre européen. Quel est le réseau sur lequel, quelles sont les structures sur lesquelles on peut s'appuyer en France et en Europe pour réfléchir à la protection de la biodiversité et à la constitution des réseaux. Voilà, donc on va s'appuyer évidemment sur l'existant. Hein, on a mis en place en France ce qu'on appelle une stratégie nationale pour la biodiversité, et donc qui, en s'appuyant sur l'existant, a pour objectif de stopper l'érosion de la biodiversité en 2010. Mais ça, on l'avait dit en 2005. Hein, lors du sommet de janvier, on avait dit, vous savez, nous, on a stoppé les nuages radioactifs il y a, en 85 ou 86. Donc là, on est capable de stopper l'érosion de la biodiversité. Bon, plaisanterie facile, excusez-moi. Donc voilà, donc c'est bien d'avoir des objectifs. Même si on n'arrive pas à les atteindre, les objectifs, ils sont aussi faits pour ça, pour mobiliser des acteurs, des structures, etc. Donc l'objectif, en tout cas, est de stopper l'érosion de la biodiversité. Alors, sur quel existant peut-on s'appuyer en France et en Europe? On peut s'appuyer sur le réseau Natura 2000 de l'Union européenne, hein, qui s'appuie sur la directive Oiseaux de 1979 et sur la directive Habitat de 1992. On peut s'appuyer également sur le réseau Émeraude du Conseil de l'Europe. Il a été créé par la Convention de Berne en 1979, le réseau Émeraude, qui concerne tous les États de l'Union européenne, mais également des États non communautaires et également quelques États africains. Et donc qui s'intéresse au classement en réserve naturelle d'un certain nombre de zones. Alors, on peut s'appuyer également sur un certain nombre d'inventaires, SNIEF, sur les zones naturelles, qui sont des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ça a été lancé en 1982, qui permettent en particulier de servir de base à l'identification de zones nodales. À partir du moment où, dans le cadre d'une SNIEF, on met des moyens et des personnes ressources pour réaliser des inventaires, cela peut aboutir à dire ben, tiens, effectivement, tel milieu est une zone nodale, c'est un réservoir de biodiversité. Car il est évident que pour la biodiversité circule, il faut repérer quels sont les réservoirs. Et puis comment on va faire circuler la biodiversité entre ces réservoirs. On a également le réseau écologique pan-européen, hein, dont les principes ont été adoptés en 1995 par 54 États du continent eurasiatique. Et alors, ce réseau écologique pan-européen vise directement à construire un réseau écologique sur ce modèle-là. On dit quelquefois que ce modèle, hein, des îles rattachées par des corridors, c'est un modèle archipélagique. Hein, on serait, si vous voulez, je veux dire peut-être pour conclure là cette fois vraiment, on est passé d'un modèle sanctuaire, d'un modèle insulaire, à un modèle archipélagique, c'est-à-dire qui ne rejette pas le modèle initial, mais qui intègre le modèle initial par la prise en compte de nouveaux facteurs. Donc on est passé d'un modèle insulaire à un modèle archipélagique à ce niveau-là. Donc il y a des réseaux comme ça, il y a le corridor biologique mésoaméricain, par exemple, qui implique les 8 pays d'Amérique centrale, depuis le Mexique jusqu'au Panama, est un réseau archipélagique qui se constitue à partir des réserves initiales qui ont été créées à partir des années 70. Et donc, on espère, j'aime bien cette image, on espère que notre île ultime sera vivable, viable, durablement, notamment parce qu'on y préservera mieux la biodiversité. Merci de votre attention.
On a du temps pour les questions, t'inquiète pas. Donc merci beaucoup Patrick Matagne, comme d'habitude, c'était une conférence nécessaire. Pour faire le point, en effet, sur la biodiversité, ses origines, les enjeux. Donc j'étais étonnée et surprise, en plusieurs sens du terme, dans l'aspect économique que tu as évoqué, parce qu'on pense en effet aux échanges de CO2. Donc si on arrive à des calculs, bon, les économistes sont partout, ils ont le droit d'être là. Si on arrive à des calculs tels que tu les décris, ça fait un peu peur quand même. Mais gardons espoir et on est bien content qu'il y ait des experts qui s'en occupent et qu'il y ait surtout aussi des gens qui sont capables de communiquer comme toi savoir ce que c'est que la biodiversité, parce qu'en effet, tu as parlé de complexité, et c'est bien complexe tout ça, mais tu l'as rendu vraiment très très clair. Je te remercie beaucoup, Patrick Matagne. Je vous invite à lire les ouvrages de Patrick Matagne. Hein.
En même temps, ce qui est intéressant dans ce que tu évoques par rapport aux économies, c'est que voilà, il y a les deux faces de la pièce. Alors, l'intérêt des économistes, l'intérêt de la monétarisation, c'est effectivement attirer l'attention sur une valeur. Et peut-être il y a l'idée de valoriser la biodiversité. Et puis, l'application du principe de substituabilité, lui, en revanche, donne à craindre.
On a édité, Patrick a participé aussi à des articles dans la revue Actualité. On a une revue sur le développement durable. Est-ce que certains de vous ne l'ont pas? Parce qu'en principe, comme vous venez, certains viennent tous les ans. Donc vous devez l'avoir. Mais ceux qui ne l'ont pas, venez me voir. J'irai vous en chercher tout à l'heure. Parce que vraiment, c'est une revue... Vous me direz, hein, je compterai, puis voilà, hein, je irai vous en chercher. Donc, merci beaucoup, Patrick. Donc, la parole est à la salle. Je suppose que vous avez des questions. Comme je vous ai entendu parler, je suis sûre que ça vous... Même les profs qui ne sont pas les profs de sciences nat, hein, il n'y a pas que des profs de bio. Hein. Oui. Attends, je donne le micro, monsieur, c'est enregistré.
Vous avez parlé beaucoup du terrestre, c'est juste un petit détail. J'ai eu beaucoup de reportages à Thalassa sur les Japonais, leurs îlots qu'ils construisaient dans la mer, leurs superstructures, où ils sont très développés depuis. Et je voulais savoir où on en était en France là-dessus. Parce que vous n'avez pas parlé du marin exactement.
Alors effectivement, je vais vous avouer tout de suite quelque chose. Si je n'ai pas parlé du marin, c'est parce que je suis relativement incompétent. Mais évidemment, dans les travaux actuels sur les corridors biologiques, il y a évidemment une réflexion sur les corridors terrestres et sur les corridors marins. Il y a des courants, il y a des qualités d'eau, des températures d'eau, des courants chauds, des courants froids, etc., qui peuvent à la fois constituer des corridors pour certaines espèces ou des barrières. Alors, c'est vrai que j'ai eu une approche très paysagère et très continentale des choses. Il faudrait travailler la question des milieux marins. Alors, j'ai peu travaillé cet aspect-là. Je sais qu'il y a énormément de programmes de recherche à ce niveau-là. Et également sur, justement, ces corridors qui échappent à nos sens. C'est-à-dire, il y a des corridors ou des barrières qui sont constituées par des facteurs physiques tels que la température, un certain nombre d'ondes, etc. Au niveau terrestre, excusez-moi encore, par exemple, il peut y avoir des corridors qui sont liés à des ruptures dans le gradient thermique. Hein. Un parking peut en lui-même interrompre un corridor par le fait qu'il y a un changement dans le continuum thermique. On réfléchit même à des corridors de noir. Parce qu'il y a des espèces qui, en ville en particulier, sont très perturbées par la lumière. Et donc, il faudrait recréer des zones, alors des corridors de silence. Hein. Et à l'inverse, il y a de faux corridors. C'est-à-dire, on crée un sentier de grande randonnée avec des arbres de chaque côté, puis on dit on a créé un corridor. Sauf que le sentier, c'est une véritable autoroute du dimanche. Et du coup, c'est une barrière. Donc, il faut se méfier des apparences, c'est-à-dire les corridors qui sont visiblement des corridors, et puis ceux qui n'apparaissent pas. Effectivement, dans le milieu marin, là, on est confronté à une plus grande complexité, à une plus grande difficulté à cause de ça. Mais j'avoue, une fois encore, mon ignorance hein, par rapport aux travaux précisément qui sont menés pour le milieu marin. Sans doute pour les récifs coralliens, donc il y a énormément de travaux qui
sont faits là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis à propos des espèces urbaines, parce qu'on n'a aucune... maintenant, on en parle un peu plus, mais on n'a aucune idée de la faune et de la flore qui est dans nos villes. Par exemple, on se rend compte qu'il n'y a plus de murs, et il n'y a plus de murs, il n'y a plus de nidification. Tout est fait en béton. J'ai vu aussi un reportage à la télévision, c'était intéressant, c'était sur le pointage des hérissons. Dans les villes, une spécialiste du hérisson qui justement faisait des petits tours la nuit pour voir comment se comportaient ses amis. Ça peut être intéressant au niveau du travail des enseignants qui sont justement dans la ville, parce que dans la ville, il y a une campagne. Hein. Enfin, ici à Poitiers, on est assez gâtés, de toute façon, même en province, on est assez gâtés, mais à Paris aussi, il y a une campagne, hein, de toute façon. Il y a des sorties botaniques. Voilà, et il y a aussi des gens qui on a vu, ont des ruches dans leur appartement. Hein, donc, Mais ça, c'est intéressant aussi. Je crois qu'il faut pointer cet aspect qu'il n'y a pas, il n'y a pas que la biodiversité, c'est pas seulement la campagne. Enfin, ça, tu l'as montré de toute façon. Hein, mais par rapport au travail pratique qui peut être fait, moi, je me souviens des sorties qu'on faisait quand on était enfant en Bretagne, notre village de 1000 habitants. Bon, quand il faisait beau, on partait, c'était à 5 minutes, bon, faire une petite balade dans la campagne. Donc, on avait notre leçon de sciences naturelles, c'était fantastique. Mais on peut l'avoir en ville aussi. Bon, ça, c'est intéressant par rapport à la préservation des espèces, etc., et aussi à la mobilisation des enfants et des petits-enfants.
Alors, ce que tu dis me fait penser à un programme de recherche qui existe au niveau des Deux-Sèvres. Alors, ça implique des écoles dans le premier degré. En fait, donc, c'est un programme de recherche initié par le CNRS de Chizé, ça s'appelle « Dénichoir dans la plaine ». Vous avez un site, si vous écrivez Chizé, dénichoir dans la plaine, vous trouverez tous les développements du site. Donc, en quoi ça consiste ? Enfin, c'est au départ une hypothèse scientifique relativement à trois espèces d'oiseaux nicheurs. Alors, il y a la huppe faciée, il y a une chouette, alors vraiment, je ne sais plus le nom des trois espèces, vieillir est un naufrage, hein. Bon, trois espèces d'oiseaux nicheurs. Donc voilà. Donc il y a un effondrement de la population de ces trois espèces d'oiseaux nicheurs donc dans la plaine de Sévrienne. Et l'hypothèse est que l'effondrement est lié au fait que ils n'ont plus effectivement d'endroits pour nicher. La disparition des vieux murs, la restauration. Donc il n'y a plus d'infractuosité, il n'y a plus d'endroits pour nicher. Donc évidemment, pour confirmer cette hypothèse ou pour valider ou non cette hypothèse, on a lancé effectivement tout un travail, alors auquel les scientifiques ne peuvent se livrer, puisqu'il faut être présent sur tout le terrain. Donc on a impliqué des écoles. C'est un bel exemple de science citoyenne, implication du citoyen dans un programme de recherche scientifique. Donc là, on a mobilisé des écoles pour qu'elles installent des nichoirs, d'où le titre « Des nichoirs dans la plaine ». Donc il y a donc des gens du CNRS, mais également de Zoodyssée qui ont été chargés de communiquer, d'informer. Il y a des réunions municipales avec les élus, etc. Et donc il y a une trentaine d'écoles qui sont impliquées et qui accueillent des nichoirs. Et alors donc, le travail, c'est effectivement d'observer si oui ou non ces nichoirs sont occupés par ces espèces, et ça permettrait évidemment de valider l'hypothèse. Parce que si les nichoirs ne sont pas occupés, ça signifie que finalement la disparition de ces espèces n'est pas liée à l'absence de nichoirs, on pourrait le dire comme ça. Et si ces nichoirs sont occupés, ça signifie que peut-être effectivement la population de ces trois oiseaux décroît parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour nicher. Alors ça pose des problèmes d'éducation du citoyen, d'expertise du citoyen, parce que bon, nous autres scientifiques, nous le savons bien, à partir d'une hypothèse est invalidée, on considère ça comme un échec et une non-information, c'est-à-dire un problème. C'est-à-dire que dans l'école ou dans le jardin du papy, s'il n'y a aucun oiseau qui vient dans le nichoir, eh bien, on n'informe pas. C'est-à-dire, on informe que quand il y a un oiseau, alors que l'information qui dit « il n'y a pas d'oiseau dans mon nichoir » est extrêmement importante, puisque ça permettra justement de valider ou pas l'hypothèse. Donc c'est aussi les limites de ces programmes dits de sciences citoyennes. Mais là, on est vraiment un travail à la fois scientifique et citoyen sur trois espèces, et donc sur la biodiversité, et biodiversité locale. Ce n'est pas une biodiversité extraordinaire. Ce sont des oiseaux nicheurs qui étaient courants encore il y a peu.
Oui, c'était juste pour savoir la place des OGM du coup dans la biodiversité, et puis de forcément toutes les grandes entreprises qui occupent le terrain sur les OGM, Monsanto, etc. Avec les normes, comment ça sûrement que les normes HQE aussi ils vont devoir faire quelque chose. Donc comment ils vont être intégrés, est-ce qu'ils vont disparaître, je pense pas, mais par rapport à la valeur justement que vous avez citée, la valeur d'option, comment ils vont s'en sortir ou pas s'en sortir, est-ce que vous avez, enfin, ou les OGM en fait, quelle place ils vont avoir sur la biodiversité?
Oui, alors c'est assez c'est évidemment controversé, et même je vais revenir d'un mot à Wilson. qui est donc co-organisateur donc, de ce premier forum sur la biodiversité, 1987, et qui est un défenseur de la biodiversité. Il s'exprime assez souvent dans les revues comme La Recherche pour la Science, etc. À chaque fois qu'il y a des dossiers sur la biodiversité, il y en a déjà eu l'an dernier, il y en aura évidemment cette année, on lui donne la parole. Donc c'est un fervent défenseur de la biodiversité, et en même temps c'est un défenseur des OGM. Puisque lui dit effectivement les OGM, on doit les intégrer à la biodiversité et ils contribuent à augmenter la diversité biologique, puisqu'on crée par le biais de ces organismes transgéniques, ben finalement, on enrichit le patrimoine génétique d'une certaine façon. Et il a une position tout à fait. Alors, il aime bien provoquer peut-être. Et, donc, il est lui très favorable aux OGM comme contribuant à enrichir la biodiversité. Alors, bon. La plupart des acteurs dans le domaine de la biodiversité sont plutôt défavorables aux OGM par rapport à l'impact possible des cultures OGM sur les cultures sauvages, sur les cultures non OGM. Il y a des questions de liberté du consommateur et liberté du producteur qui sont en jeu, mais aussi il y a l'évolution de la biodiversité des espèces sauvages au niveau génétique liée à l'introduction de ces OGM. Donc là, on peut effectivement être inquiet à ce niveau-là. On est en train de jouer sur les lois de l'évolution elles-mêmes à ce niveau-là.
Tu sais bien que les lois de l'évolution, on joue dessus depuis que la nature existe, hein. Donc, mais le problème, ce n'est pas seulement les OGM, c'est aussi les insecticides. Hein. Tant qu'on continue à mettre des insecticides partout, voilà, on a déjà transformé la nature. Il y a déjà d'abord des espèces qui sont modifiées et qui se promènent un peu partout. Je crois que, si je ne me trompe pas, du colza, on en trouve au bord des routes. Le colza, il est modifié. Hein, celui que vous trouvez sur votre bord de talus, qui est arrivé comme ça parce qu'il y a un qu'il y a du vent, il se retrouve au bord de votre talus, vous passez devant voiture, bon, vous savez, c'est déjà une espèce modifiée. Donc c'est très complexe, on a organisé une journée d'études là-dessus, hein. On a une revue l'actualité, mais les questions en effet sont intéressantes, mais même des espèces qui évoluent dans le milieu, dans leur milieu, en s'adaptant au milieu, elles s'adaptent à quoi ? À ce qui a évolué. Enfin, c'est une question que je te pose.
Oui, tout à fait. Mais alors, du coup, il faut effectivement revenir à la définition d'OGM. Bon, il y a une définition qui a été proposée au niveau européen en 2001, je crois, je ne sais plus, il y a un texte, qui définit l'OGM. Et on exclut de la définition de l'OGM toutes les espèces animales végétales qui sont issues de processus de sélection naturelle ou artificielle depuis le néolithique. Je veux dire, depuis le néolithique, on a commencé à croiser des espèces animales et végétales, on a créé des hybrides. C'est sur la sélection artificielle, d'ailleurs, que s'est appuyé Darwin pour construire sa théorie. Bon, toutes les espèces animales et végétales que nous consommons, qui nous entourent, sont issues de processus de sélection sexuelle, de sélection artificielle. Donc ça, c'est exclu de la définition d'OGM, de la définition officielle. Parce qu'effectivement, là, on traverse une barrière qui ne peut pas être traversée dans la nature, c'est-à-dire entre l'animal et le végétal. Puisqu'on a, des fragments de génome d'insectes, par exemple, qui peuvent être intégrés au génome du maïs. Donc là, d'où ce transgénisme-là traverse les barrières classiques, je dirais. Donc c'est intéressant parce que c'est une version moderne des bestiaires du Moyen-Âge, quoi, ce sont des monstres. C'est ces représentations de monstres du Moyen-Âge, mi-homme, mi-animaux, mi-végétal, mi-animal. Je veux dire, du colza transgénique, c'est un monstre moderne, mi-animal, mi-végétal, si on veut. Donc là, on a les OGM, voilà. Le débat sur les OGM porte vraiment strictement sur des organismes qui sont issus du génie génétique.
Sur les OGM, bon, je suis agnostique, mais quand je vois des boîtes comme Monsanto, ça m'étonnerait que leur souci, ça soit la biodiversité. Je pense surtout qu'ils cherchent à ne faire que peut-être tout au plus 3 variétés de maïs qui inonderaient le monde, et puis tant pis pour le reste. Donc, on est bien d'accord là-dessus. Hein.
Là, il est tout à fait clair que l'objectif, c'est d'avoir le monopole sur deux ou trois espèces, deux ou trois variétés, et avoir également un monopole au niveau des brevets, puisqu'on dépose des brevets sur le vivant. Donc cet organisme appartient à une société privée. Et effectivement, là, on est dans un autre registre. On parlait de différentes révolutions vertes. Là, on est peut-être en train de vivre une nouvelle révolution verte, c'est-à-dire pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, ces biens communs de l'humanité que sont des semences deviennent des biens privés, puisqu'on a depuis le point clé s'est fait au milieu des années 80 où a été déposé le premier brevet sur un organisme vivant. Et là, évidemment, on est plutôt dans la logique d'une réduction de la biodiversité. Il y a des études qui ont été faites par rapport au maïs, hein, entre la grande diversité des variétés de maïs utilisées au Mexique, par exemple, qui est en train de se réduire parce que s'impose le Monsanto, je ne sais plus lequel, 800, enfin bon. Oui.
J'arrive, je vous donne le micro.
Même les semences, déjà, on peut pas trouver. Si les semences n'appartiennent pas à tel cahier de vente, on peut pas. Il y a Monsanto, il y en a d'autres. Mais déjà, à la base, alors je ne sais pas si c'était en 1980, mais on a commencé à déposer des semences. Mais par exemple, quelqu'un qui veut vendre une semence qui est ancestrale ou qu'il a trouvée, il peut pas. Donc déjà, à la base, ça, c'est on est sur ce que vous disiez tout à l'heure.
Enfin, faut pas oublier que Monsanto s'est fait alpaguer quand même. Hein. Donc voilà. Il y a aussi un sujet auquel je tiens beaucoup, c'est la préservation des espèces animales. Tu le sais bien, Patrick. Donc tu en as parlé. Bon, il faut pas. Il y a des espèces, bien entendu, qui sont très très agréables à regarder, comme l'éléphant. Mais il y a d'autres espèces aussi qui ont disparu, qui vont disparaître, dont on ignore pratiquement les noms. Et bon, qui sont quand même nécessaires pour l'équilibre de la biodiversité. Donc je pense qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus et qu'il y aura de plus en plus justement de mesures au niveau de l'Europe, hein, par rapport au bien-être de l'animal. Et j'ai cru comprendre que la corrida sera interdite. Je crois que c'est en 2012, oui. Et bon, parce que justement il y a des pressions des associations pour arrêter le massacre, quoi. Bon, en évoquant bien sûr que c'est un problème culturel, mais la culture nature, faut bien falloir que l'homme s'y retrouve quelque part, hein. Bon, il invente la culture, mais la nature lui renvoie quand même quelques leçons au passage, hein. Donc tout ça pour faire de la pub pour la semaine prochaine, parce que j'ai une très belle journée sur s'appelle le sens de l'animal. Donc, qui réunira justement des personnes dont Patrick a parlé, hein, sur justement comment on pense animal aujourd'hui, quel est le rapport entre l'homme et l'animal, avec des philosophes, des historiens, des gens qui travaillent particulièrement sur l'élevage, hein, qui ont travaillé dans des lieux où justement on s'occupe des animaux, le rapport de l'éleveur à l'animal. Aussi le rapport de l'homme à l'animal, puisqu'on va aussi parler de l'industrialisation, hein, de la manière dont on traite les animaux maintenant. Donc ça, ce sont des sujets aussi intéressants. Pour, je ne sais pas si vous les traitez avec vos élèves, parce que je ne sais pas s'ils sont conscients ou... oui, ils ont des animaux domestiques. Est-ce qu'ils sont conscients de cette réalité-là, hein. Ils mangent de la viande, etc. Bon, c'est important. Mais moi, je trouve que c'est un sujet passionnant pour les enfants, parce que c'est eux qui préparent cet avenir-là, hein, savoir qu'il va falloir gérer tout ça. On mange trop de viande, hein, et nos amis, les Chinois et les Indiens, les pays émergents, veulent plus de viande. Mais comment on va faire ? Comment on va faire ?
Juste une remarque par rapport aux élèves, c'est que quand on sort les expériences électrostatiques avec des peaux de lapin ou de chat, ils sont persuadés qu'on les a torturés avant de récupérer la peau. Enfin, niveau de la vision. Non, mais c'est vrai. Hein. Quand on sort une peau pour frotter et faire des expériences, ils sont horrifiés. Ils n'osent même pas toucher la peau de... Ah non, c'est... Donc je ne sais pas s'ils sont sensibles.
Non, mais c'est une question d'éducation. Mais là, je faisais une petite diversion. par rapport à la conférence de Patrick, mais comme tu en as parlé, et je pense que c'est quelque chose aussi qu'il faut regarder. Donc, est-ce que vous avez des questions, les dames bavardes là ? Non ? Parce que vous parlez entre vous. Attendez, je vous le passe. Allez-y. Dame bavarde.
On parlait de l'homme qui avait introduit tout un tas d'espèces animales qui avaient modifié les écosystèmes. On pense à l'écrevisse, à la tortue, la cistude, à certains crapauds. En France, ailleurs, ça peut être... en Polynésie, où j'ai vécu, c'était le merle de Moluques. Tout un tas d'espèces qui ont été introduites. Et après, on cherche une nouvelle espèce pour supprimer la première. Alors, c'est sans fin.
C'est vrai que vous faites allusion au lapin en Australie. Donc, ça, c'est un exemple historique qui est devenu un exemple pédagogique sur la non-maîtrise par l'homme d'un certain nombre d'éléments qui font que le remède est pire quelquefois que le mal. Mais c'est vrai que vous avez raison. Il y a énormément de travaux sur ce qu'on appelle maintenant les espèces invasives dont vous venez de parler là. Et donc, on est dans une situation paradoxale, c'est-à-dire que la diminution de la biodiversité peut entraîner localement une explosion de certaines populations. Donc là, on pourrait dire, mais... la biodiversité pas en danger. Regardez, des écrevisses, il n'y en a jamais eu autant. Il y a des banquets. Voilà. Donc, les appréciations, on est toujours obligé. C'est quelque chose qu'on oublie quelquefois de mettre en perspective. Tout ce qui relève du local et qui se relève du global. Voilà. L'interaction entre le global et le local. Voilà. La biodiversité du territoire que je connais est en lien avec la biodiversité d'autres territoires. Alors, des invasions locales ou des disparitions locales, qu'est-ce que ça signifie par rapport à d'autres territoires. Mais là, oui, les espèces invasives sont tout à fait préoccupantes et pas seulement pour des raisons économiques.
Avec les transports maritimes aussi, le rat, par exemple. Puisqu'on parle toujours d'érosion, mais quand on modifie le milieu, il y aura émergence de nouvelles espèces. Seulement, on n'en est pas toujours conscient parce que c'est à notre échelle. Donc, ces nouvelles espèces, peut-être qu'elles seront intéressantes, peut-être qu'elles ne le seront pas. Donc, qu'est-ce que l'érosion de la biodiversité ? Voilà.
Mais on avait noté ça lors de l'essor du chemin de fer au 19e siècle, puisque en particulier pendant la guerre de 70, on transportait des fourrages pour les chevaux qui étaient utilisés sur le front. Et donc, le transport de fourrage a amené la dispersion d'un certain nombre de graines, et il y a eu des espèces végétales invasives qui se sont développées à partir des lignes de chemin de fer. Hein, y en a un qui est très connu, là, maintenant, c'est pas un fourrage, mais c'est le robinier, le faux acacia. Hein, qui est extrêmement abondant le long des voies ferrées. Mais là, c'est le type même d'une espèce végétale invasive dont l'invasion est provoquée par les transports, donc par le chemin de fer. Donc là, il y a effectivement l'écologie des bords de route est assez intéressante à ce niveau-là aussi.
Oui, moi, je voulais parler de la même chose, hein, mais des espèces qui viennent seules, des oiseaux, notamment les cigognes et les ibis d'Égypte qui envahissent les marais de Charente-Maritime. Et là, personne ne les a fait venir, ils viennent tout seuls et ils restent. Et c'est un déséquilibre important, surtout pour l'ibis d'Égypte.
On dit les aliens, on dit, hein, maintenant.
On parle des aliens.
C'est des espèces aliens, oui, c'est ça.
Mais c'est pas l'homme qui les a fait venir.
Non, non, du tout. Alors, il y a des raisons climatiques. Oui. Souvent, oui.
L'ibis d'Égypte, apparemment, s'adapte partout et mange les oiseaux, les œufs des oiseaux, etc.
Merci.
Moi, je me pose une question par rapport à l'érosion à nouveau et au fait de maintenir l'équilibre qu'on a actuellement, parce qu'effectivement, quand des espèces arrivent comme ça, est-ce qu'on ne va pas tendre vers un nouvel équilibre ? Est-ce qu'il sera moins bon ou meilleur que celui qu'on a actuellement ? C'est la question, est-ce qu'on a des recherches là-dessus ? Est-ce que la biodiversité, c'est maintenir l'équilibre actuel que l'on a entre les espèces ? Ou est-ce que c'est tendre vers accepter ce changement d'équilibre et savoir qu'on va tendre vers un nouvel équilibre ?
Alors, c'est tout à fait intéressant ce que vous dites là. C'est, ça, ça fait l'objet de travaux, en particulier, je pense à quelqu'un comme Patrick Blandin au Muséum, qui est venu ici et qui, dans ses études sur la biodiversité, veut qu'on intègre effectivement la donnée évolutionniste. Il dit, attention, il faut aussi préserver la capacité des écosystèmes à évoluer, à changer. Je veux dire... À quoi ça rime de vouloir stabiliser un écosystème sous prétexte de protéger la biodiversité, parce que ça nous arrange qu'il soit stabilisé autour de cette biodiversité-là. Donc on a aussi à veiller à créer des dispositifs, alors corridors ou autres, qui permettent de maintenir la variabilité potentielle des espèces du fait de leurs interactions, etc. Alors, vers où on va, on n'en sait rien, effectivement, on peut modéliser, je sais pas, c'est assez folklorique, mais au Futuroscope, vous avez des animaux, une animation avec les animaux du futur maintenant, donc c'est complètement folklorique. Donc, si on imagine, en fonction des modes d'évolution de certaines espèces actuellement, ce que donneront ces espèces dans 1 million d'années, 10 millions d'années, 100 millions d'années. Bon, on est dans un petit train, on a machin, tout ça. Bon, ma fille, ça l'amusait. Mais bon, c'est un petit peu, voilà, c'est, on est, ce qui veut dire qu'on est un petit peu aux limites là de la science. Enfin, on est un petit peu, donc il y a tout, ça peut donner lieu à des productions artistiques, ludiques, etc. Mais en tout cas, ce qui est au cœur, me semble-t-il, si j'ai bien compris de votre remarque, c'est le fait, attention, on ne va pas instrumentaliser non plus la biodiversité actuelle en disant la biodiversité de tel milieu est riche, il faut la maintenir. Il faut maintenir cette richesse-là. Hein, on n'est pas dans du une attitude conservatrice à ce moment-là.
Une question un peu provocatrice. La biodiversité, c'est un problème politique, Patrick ?
Science et gouvernance, hein, on disait en janvier. Bien sûr, c'est un problème politique. Ouais.
Donc il y a des lobbies ?
Bien sûr, il y a des lobbies, il y a du business. J'évoquais hier, pour d'autres raisons, la big science, hein, autour de la génétique. Il y a de la science, il y a du militaire et puis il y a du business.
Non, parce que les chasseurs te disent en fait qu'ils font une belle œuvre en disant qu'ils maintiennent la biodiversité. Oui. Hein, donc il y a des espèces qui ont, le loup a disparu, donc on peut tuer toutes les autres espèces, enfin les espèces qui en fait parce que naturellement les espèces se maintenaient un certain équilibre. Donc bon, il y a le côté aussi entre guillemets. Ça, c'est sans doute étudié, mais le côté pervers, la récupération d'un concept pour en faire, bon, comme le développement durable est aussi récupéré pour certaines communications, nous ne nous cachons pas. La biodiversité, c'est aussi se donner bonne conscience et puis dire, écoutez, allez-y, après tout, vous pouvez y aller, il y a toujours des cerfs, il y a beaucoup trop de chevreuils, etc. Et puis, les loups ont disparu, donc allez-y.
Il faut jouer le rôle du maillon manquant. Quoi.
Bon, il y a un petit souci.
C'est vrai que c'est... Souci. C'est la biodiversité vue avec des lunettes locales, quoi. Je veux dire, ce sont les intérêts. Quel type de biodiversité intéresse le chasseur et pourquoi ? Quel type de biodiversité intéresse le naturaliste et pourquoi ? Quel type de biodiversité intéresse l'agriculteur et pourquoi ? Etc., etc., etc. Et donc là, une fois encore, me semble-t-il, tant qu'on ne fait pas fonctionner, pour le dire un peu... façon pompeuse, tant qu'on ne fait pas fonctionner la dialectique du local et du global, le act local et le thing global, ben on est coincé. On est coincé.
Attendez, monsieur, je vous donne. Je ne vais pas qu'on jette l'anathème sur les chasseurs, je ne suis pas chasseur, mais je sais, j'habite le Jura également de temps en temps, et il y a des arrêtés préfectoraux pour limiter justement les invasions de sangliers et de cerfs, notamment en forêt de chaux à côté de Dole. Et donc, c'est simplement.
C'est vrai que la disparition d'un certain nombre de prédateurs, du coup, nous donne une certaine responsabilité, parce que nous sommes responsables de la disparition de ces prédateurs, donc nous allons devenir responsables de la gestion des espèces qui vont, dont les populations risquent d'exploser, et ça entraîne des désastres écologiques, et où, bon, effectivement, les sangliers, par exemple. Donc là, il y a effectivement à demander aux chasseurs d'avoir un rôle écologique. Tout à fait. Oui, mais bon, on en est là. Donc, on peut pleurer et le déplorer, mais on ne va pas rester les bras croisés.
Ils ont l'autorisation de tuer. Les préfets ont donné l'autorisation de tuer les sangliers. Ça ne pose aucun problème.
Oui, non, mais cette histoire... c'est nettement plus compliqué que ça, parce qu'à la limite, qu'il y ait une population double de sangliers qui se promènent dans les forêts, ça ne dérangera personne.
Mais comme il vient de s'attaquer aux cultures, c'est surtout ça. Hein. C'est encore économique derrière, hein. C'est pas autre chose. Hein. Ouais, c'est ça, ouais.
Dans les banlieues, on les voit
ouais, c'est ça.
Dans les jardins des gens. Hein.
Ouais.
Mais bon.
Ce qui est évidemment intéressant dans tout ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'on voit bien voilà, les dimensions, alors tu disais politique, sociale, écologique, culturelle, enfin on voit bien que tout est entremêlé. Et, oui, c'est tout à fait intéressant. Même, voilà, c'est ça, l'effet papillon. C'est une autre manière de le dire, oui, tout à fait.
Non, je voulais simplement faire...
C'est vrai que là, les préoccupations relatives à ce qu'on appelait pas encore la biodiversité sont anciennes. Il y a par exemple le cas de l'Île-de-France, l'île Maurice au XVIIIe siècle. On pourrait trouver. Il y a tout ce qui est entre dans le cadre de ce qu'on appelle la science coloniale. Il y a des spécialistes de qui ont travaillé sur la science coloniale et qui ont montré que en même temps que le projet colonial se développaient les sciences et également une première sensibilisation au problème de l'exploitation des richesses naturelles des territoires conquis. Il y a une réflexion philosophique. Il y a des gens comme Bernardin de Saint-Pierre, par exemple, qui ont commencé à attirer l'attention, à déplorer, par exemple, la surexploitation de l'Île-de-France et déplorant la perte d'un paradis. Bon, on est plutôt dans cette image édénique hein, des territoires conquis. Mais au travers de ces discours, de ces réflexions littéraires, philosophiques, on a bien un intérêt. Alors, l'intérêt est relativement ancien, même si c'est l'intérêt d'une élite, évidemment, au XVIIIe siècle. Les personnes concernées appartiennent à un même milieu. Mais on a cet intérêt qui est très, 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 très ancien, d'une certaine façon. Mais vous avez raison, le concept de biodiversité dont on parle est un concept qui a 30 ans, qui est tout à fait jeune. Et c'est un concept dont l'évolution, dont la définition évolue, se complexifie, qu'on rattache à d'autres problèmes. Et donc là, on est aux prises avec quelque chose d'un peu nouveau, c'est vrai. Enfin, on le pense. Disons que c'est le concept de biodiversité entraîne un nouveau regard sur le vivant, d'une certaine façon. Et donc là, on est face à cette nouvelle nécessité de voir la biodiversité comme un objet complexe.
Ce qui compte aussi, tu as raison, c'est d'en prendre conscience, c'est important. Qui n'a pas la revue Développement durable ? Il est presque l'heure de déjeuner, mais c'est aussi l'heure de l'apéro. Donc, Mendes France vous offre l'apéritif pendant que je vais chercher les revues.